Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cameo, la plateforme d'entraide pour multipotentiels et slasheurs, ces personnes curieuses aux multiples passions, activités et compétences pour qui se spécialiser dans un seul domaine est un véritable cauchemar. J'espère que vous êtes bien accrochés car dans cet épisode nous recevons Florence Baruch, une fille créative et débordante d'énergie. Journaliste, reporter et animatrice pour de célèbres stations de radio, enseignante de musique et aujourd'hui auto-entrepreneuse dans son studio de création, vous allez l'entendre nous raconter son parcours et les enseignements qu'elle en a tirés. Elle utilise des métaphores poétiques et surprenantes pour décrire de manière juste certains ressentis qu'on peut avoir en tant que multipotentiel. Allez, sur ce, on vous laisse écouter cet épisode et comme d'habitude, on espère que vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bonne écoute! Bonjour Florence.
Déjà, premièrement, bonjour.
Bonjour, bonjour tous les deux.
Est-ce que tu pourrais te présenter comme si tu te présentais à une personne qui ne connaît pas le terme multipotentiel?
En combien de signes?
en tout ce que tu veux, mais par contre en quelques minutes.
Ouais, c'est dur en résumé, c'est toujours hyper dur l'exercice de se résumer. Je m'appelle Florence, ça, ça va, j'ai 31 ans, ça, ça va, c'est rapide aussi. Et pour expliquer ce qui me caractérise en tant que multipotentiel, c'est-à-dire que je ne suis pas cette fille qui a l'air super chiante et super active et qu'on ne peut pas suivre. Je suis cette fille super intéressante et super curieuse que tu as envie d'avoir pour meilleure amie parce qu'elle t'emmène dans plein de bons plans hyper cool. Elle te fait découvrir plein de choses parce qu'elle passe sa vie à découvrir des tonnes de pratiques, des tonnes de lieux, des tonnes de bons plans. Donc, c'est plutôt un bonheur au quotidien, en fait, la multipotentialité.
Ah, c'est ouais. Cool.
Mais est-ce que c'est la façon dont tu te présentes quand tu arrives en soirée que tu connais pas quelqu'un parce que
je vais être ta meilleure amie.
Non, mes amis ont un peu tendance à m'appeler Miss Bonplan, c'est vrai. Mais on va dire que je ce truc d'ailleurs que je déteste et que je me vois faire et que je déteste faire, c'est-à-dire que je rentre dans un cadre que j'aime pas de bonjour, je m'appelle Florence, je fais ça dans la vie. Et ce truc de je donne mon nom, on donne pas son âge, on dit pas qui on est, qu'est-ce qu'on aime, où est-ce qu'on vit, on dit juste voilà ma fonction sociale. Et c'est vrai que je le fais et que je trouve ça nul, surtout que j'en ai pas qu'une et que c'est pas forcément celle que j'aime le plus que je vais présenter en premier. Donc c'est un peu dommage. Mais je préfère cette manière, je vais peut-être changer du coup maintenant.
Ah, ouais. C'est bien, tu vois, on inspire sur certaines choses. Ouais. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis sur la fonction sociale parce que c'est vrai que c'est une des questions qui est souvent posée quand on pose à quelqu'un. Qui es-tu ? La première chose qui ressort, c'est la fonction sociale. Mmh. Et donc, du coup, comme tu disais, toi, t'en as plusieurs.
Ouais, et puis en plus, c'est en plein chamboulement en ce moment. Ah. Donc, j'en ai plus que plusieurs. C'est varié.
Est-ce que déjà, tu peux nous parler des précédentes, des fonctions précédentes ?
Alors, on va dire que ça a commencé à peu près quand j'avais 12-13 ans, au moment où j'ai commencé à... Parce qu'en fait, j'étais au conservatoire. J'ai commencé à prendre le violon au conservatoire quand j'étais petite et j'ai commencé à me produire en fait sur scène en orchestre symphonique et en orchestre baroque à peu près à cet âge-là. Et quand j'étais au lycée, mon job de lycéenne, c'était de faire de la musique. Je faisais du violon électronique avec un DJ et on allait dans les boîtes de nuit en Europe et on animait les samedis soirs comme ça des gens qui étaient... complètement sous et qui kiffait ça. Donc c'est un truc un peu bizarre d'aller en boîte de nuit pour travailler en mode normal. Mais surtout que j'étais mineure. Mais c'était
avec un violon.
Voilà, avec un violon. Un beau violon rose en forme de S. J'ai toujours chez ma mère.
Osons le rose. Pas,
c'est ça, osons le rose. Et, voilà, je vois qu'on a fouillé.
Pas du tout.
C'était ma première vie de musicienne qui m'a conduit à faire des études de musicaux. Donc j'étais musique à fond. C'est ce paramètre son, on va dire, parce qu'à un moment, il a bien fallu que je me rende compte que je ne serais quand même pas violoniste professionnelle, parce que je n'avais pas ce niveau-là, m'a conduite à travailler sur des études de communication du son, et donc communication de la culture, pour finalement devenir journaliste radio. Je fais le parcours un peu rapide, hein, parce que j'égrène pas les diplômes un par un, parce que c'est un entonnoir qui a pris un petit peu de temps. Mais c'est vraiment ça, c'est la forme de l'entonnoir, c'est-à-dire que j'avais plein de choses au début, et puisqu'il fallait bien se définir une orientation professionnelle, j'ai resserré en fonction de ce qui me plaisait. Donc la culture, la communication, le journalisme, la radio, donc le reportage culturel. Et donc ça a été voilà, ma seconde vie, jusqu'à il y a 6 mois. Où j'étais journaliste, reporter radio à Radio France.
Et aujourd'hui, donc, tu as pour but de changer, de chambouler tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Ouais, pour multiples raisons. parce qu'il me manquait un côté un peu transmission dans les médias. Je trouve qu'il y a un peu cette course à l'audience en permanence qui fait qu'on n'a plus le temps de rencontrer les gens, on n'a plus le temps de parler, on n'a plus le temps d'aller rechercher des choses intéressantes dans des pratiques, dans des concepts, dans des lieux. Et surtout, du coup, on n'a plus le temps de transmettre des choses intéressantes. On fait plus que... Pour moi, les médias aujourd'hui, c'est de l'analyse, en fait. C'est de l'analyse de faits. C'est, tu es derrière un ordinateur avec une dépêche AFP et tu commentes. Donc pour moi, c'est de l'éditorialisation et plus du journalisme et surtout pas du reportage. Donc ça devenait un peu compliqué pour moi de rester dans ces conditions-là. Et j'ai voulu retrouver la transmission en prenant du coup un job de prof en collège. Du coup, maintenant, je suis prof de musique au collège. Ce qui est hyper rigolo parce que quand j'avais 15 ans, je faisais flipper ma prof de maths parce que j'étais nulle en maths en lui disant que j'allais devenir prof de maths parce que je voulais devenir prof de musique. Et en fait, finalement, j'ai abandonné le projet et 15 ans plus tard, je l'ai retrouvé un peu malgré moi, parce que c'est un peu un job alimentaire, le temps de retrouver un peu ce que je voulais vraiment faire et qui a commencé à se concrétiser il y a à peu près 2-3 mois, où j'ai décidé en fait de reprendre un peu mes études en art appliqué, en design, graphisme, pour pouvoir monter c'est pas forcément hyper encore connu en France, des studios de création. Enfin, ce serait mon rêve à terme d'avoir un bureau sous des toits avec des poutres, des fleurs qui partent du plafond, pour pouvoir créer des supports de communication culturelle plutôt, à destination des institutions culturelles, mais sous multiples formes, donc transdisciplinaires. Donc aussi bien de la vidéo que j'ai appris à faire, que du son, pareil, qui était mon premier métier, et que le graphisme que je suis en train d'apprendre à faire. Et puis pourquoi pas réussir à terme à sculpter aussi... d'autres matières, j'adorerais faire des choses avec les bijoux, des choses avec les parfums, avec les odeurs. J'ai des gros fantasmes avec les odeurs, je sais pas pourquoi ça m'attire complètement. Je trouve que c'est plus parlant qu'un mot, une odeur, ça raconte plus de choses en moins d'éléments. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif en ce moment de me reconstruire un peu, du coup, pour mêler tout ce qui fait de moi une multipotentielle, mais à l'intérieur d'une seule fonction dans laquelle je vais trouver mon équilibre, c'est-à-dire et la création, et la transdisciplinarité, c'est dur à dire, et la transmission. Mais ça m'a fallu un peu de temps quand même pour arriver à aboutir sur cette idée-là, en me disant, ok, je vais faire un truc, ça existe un peu, ça n'existe pas beaucoup, mais c'est parce que je ne vais pas dire créer un métier parce que je n'ai rien inventé, mais en tout cas... trouver ce qui me plaît vraiment, aller chercher des choses qui me plaisent et que je ne maîtrise pas encore, et mettre tout ça dans des cases pour faire un joli puzzle qui ne ressemble qu'à moi. C'était un peu une démarche un peu longue, il y a eu un peu de larmes, mais je suis un peu contente de la direction que ça prend, même beaucoup contente, en fait.
J'aime beaucoup la dimension, en fait... Pendant que tu nous expliquais ton parcours, tu as vraiment cité les cinq sens. Tu as cité la vidéo, tu as cité l'odorat, tu sais, tout ça. Mm. Ça montre vraiment la diversité, ton côté multipotentiel, ton côté, ta sensibilité aussi.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que toi, j'ai vu que dans ta description, tu disais, tu te définissais en tant que slasheuse multipotentielle, ludique et positive. On adore cette formulation. Est-ce que toi, tu fais une différence entre le slasheuse et le multipotentiel?
Alors, en toute transparence, c'est juste marketing. Ça, je l'ai marqué sur mon LinkedIn. C'est parce que pour moi, le terme slasher commence à venir un peu dans la presse, dans les médias. Je vois des articles sortir. Et donc, si je veux qu'on me retrouve sur LinkedIn, en fait, je suis plus facilement trouvable avec le terme slasheuse que le terme multipotentiel. Mais je mets les deux. Parce que le terme multipotentiel me tient à cœur, parce que d'abord, je l'ai découvert à travers d'une vidéo TEDx qui est aussi sur mon LinkedIn de Emily, avec un nom imprononçable qui commence par W.
Wapnik.
Merci.
On s'entraîne. Bien. On s'entraîne beaucoup.
C'est ça. Et je trouve que c'est une des premières à avoir vraiment, alors peut-être pas théorisé, mais en tout cas expliqué avec des mots très simples et très justes ce que c'était. Et je me suis vraiment reconnue à fond. Alors que slasher, des fois, il y a ce côté un peu, je suis bouchée le lundi, je suis joaillier le mardi, je suis, technicienne de surface le mercredi et prof d'anglais le jeudi, vendredi. Du coup, vraiment des choses qui n'ont rien à voir pour le besoin d'avoir des activités variées. Multipotentialité, je trouve que souvent, dans les gens que je rencontre qu'ils sont, il y a quand même des liens entre tout ça, finalement. C'est un peu l'idée de ne pas avoir une expertise, une spécialité, mais l'idée d'en avoir plusieurs qui se réunissent pour faire de toi un peu un super combo.
Ben alors c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, parce que c'est une discussion que nous on a depuis un petit moment sur ça, la différence, parce que c'est les deux termes qui arrivent de plus en plus en ce moment dans les médias. On va trouver dans des médias, mais plus internet de ce côté-là, le terme multipotentiel. Et le slasher est en train d'arriver, plus on le trouve maintenant dans quelques magazines. On le trouve sur LinkedIn, par exemple, et d'autres endroits, notamment certains bouquins aussi. Et on s'est bien rendu compte de cette différence du multipotentiel. Il y a quelque chose, il nous semblait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus émotionnel, en tout cas, qui prenait le pas d'artistique, de j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est moins marketing. On va dire, et quand je dis marketing, pas dans le sens que c'est le terme, mais marketing dans le sens que le slasher, nous, on le voit un petit peu plus, enfin, du moins, moi, je ne vais pas t'inclure dedans de suite, moi, je le vois plus comme quelque chose, oui, mais parce qu'il a le droit d'avoir ses opinions.
Oui, oui.
Merci. Et voilà. Je le vois plus comme quelque chose où je suis un autre un entrepreneur qui a envie de faire plusieurs choses et je vais jouer sur plusieurs cartes, plusieurs palettes.
C'est ça.
Alors que
c'est
le multipotentiel, je le sens plus perdu d'avoir plein de choses. Et il a envie de faire plein de choses. Mais il a plus de mal, justement, à s'organiser.
Ah, c'est hyper rigolo que tu dis ça, parce que je me souviens, quand j'étais encore à Radio France, j'avais envie de proposer un sujet là-dessus, un reportage, et j'avais employé le mot multipotentiel. Et la personne que j'avais en face de moi m'a regardé avec des yeux ronds. Du coup, j'ai essayé d'adoucir les angles en disant « D'accord, slasher ». Il a fait « Ah ouais, là, c'est intéressant, pourquoi pas, ok ». Et puis finalement, ça s'est terminé en « Ouais, mais non, en fait, c'est chiant, donc on ne va pas le faire ». Mais du coup, l'entonnoir aussi, pour le coup, était intéressant de multipotentiel. Ah non, slasher, ah peut-être, ouais, mais finalement, non.
Enfin, c'est fou, ça, cette différence, parce que c'est le mot potentiel qui
fait peur.
Qui fait peur.
Peut-être, mais en fait, je ne sais pas, parce que… Je réfléchissais à ça avant qu'on communique ensemble pour me faire un peu un brainstorming mental. Et je me disais, est-ce que c'est moi qui suis complètement parano et un peu victimaire de moi-même sur le côté un peu, est-ce qu'il y a une jalousie des gens ou est-ce que pas du tout? Et c'est autre chose que je ne comprends pas qui fait que la chose n'est pas acceptée. En fait, ma mère va, par exemple, ma mère dira, ah, mais si tout le monde est jaloux de toi, t'es tellement géniale, ma fille. et mon mec va me dire, non, mais attends, redescends, calmos, c'est peut-être pas ça, tranquille. et c'est vraiment ça, en fait. Quoi. Est-ce que c'est une histoire de jalousie du terme potentiel? Est-ce que, ou jalousie, ou en tout cas appréhension? Ou est-ce qu'il y a autre chose? J'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Moi, je pense que c'est le côté émotionnel qui peut faire peur. Effectivement, le terme potentiel peut avoir quand même une signification qui aussi peut interpeller. Ce qui ferait plus peur, il y a un autre terme dont on parle très rarement, c'est Renaissance Person, en anglais, personne de la Renaissance, donc. Hein. C'est vrai que là, ça peut faire peur parce que ça va évoquer des gens comme Léonard de Vinci, etc. Et là, je peux comprendre que ça fasse peur parce que les gens se disent, mais pour qui ils se prennent? Ils se prennent pour des surhommes, etc. Alors que c'est pas du tout le principe. Le principe, c'est de dire que à une époque, c'était normal de s'intéresser à beaucoup de sujets, d'être ouvert, de vouloir faire.
C'était nécessaire.
C'était nécessaire.
D'un point de vue sociétaire, c'était nécessaire.
Et c'est vrai que peut-être ce qui a fait peur quand on a parlé, c'est le fait de vouloir faire beaucoup de choses en même temps, le fait de vouloir avoir des projets qui combinent plusieurs. Plusieurs domaines en simultané, et c'est vrai que ça peut faire peur.
Alors, il y a deux choses super justes là-dedans que j'ai pu constater dans mon parcours font très peur, enfin même trois, j'ai rajouté un bonus. j'ai des émotions. Oh, qu'est-ce que ça fait peur au patron, ça? Ah là là, elle a des émotions. En plus, elle est ambitieuse, elle a envie de faire plein de choses. Et comble de malheur, pour moi, je suis une femme. Donc, je pense que c'est trois trucs qui gênent beaucoup dans une même personne. C'est peut-être c'est vrai, ça fait beaucoup, je pense, ouais.
On dirait qu'on t'a payé à l'avance pour que tu nous fasses nos transitions, en fait. Parce que...
C'est merveilleux.
Pourtant, on n'a pas discuté de tout ça avant. Je tiens à le dire, on a perdu 5 minutes pour faire les tests son avant. Mais... Non, voilà, parce qu'on voulait parler également. J'ai lu une tribune que tu as écrite justement sur la tribune du Monde, sur ton blog, et que j'ai trouvé extrêmement intéressante. J'adore ta vision. C'est la vision que tu as sur ce sujet, qui est vraiment d'actualité. J'ai trouvé ça très juste. Est-ce que tu pourrais peut-être nous le résumer, nous en parler?
C'est un avis que je mature depuis quelques temps, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle TEDx, Champs-Élysées Women, qui, en fait, on organise des conférences TEDx, comme la fameuse conférence qui a découvert le terme multipotentialité. Et donc, on organise une fois par an des conférences avec des speakers qui viennent parler de leur vision de l'équité entre les hommes et les femmes, pour ne pas parler d'égalité. Et il y a ce truc, à chaque fois sur scène, qui oppose les visions de certaines femmes. Et pour moi, cette tribune du Monde, alors moi, je les ai appelées la tribune MeToo versus la tribune droit à opportuner, enfin, je n'ai pas dit exactement comme ça, mais en gros, c'est ça. Mmh. Et je trouve que finalement, on arrive finalement... Je dis beaucoup finalement, mais au lieu d'avoir un débat constructif où la sororité va servir une cause, bah en fait, on a juste un bullshit incroyable de « non mais c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, non c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Et finalement, les femmes se confrontent dans ce cliché de « oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont reloues, ces hystériques à se plaindre et à se clasher les unes les autres ». Enfin, je caricature vraiment beaucoup là, mais on a deux camps de femmes qui s'opposent et qui n'arrivent pas à s'entendre, alors que finalement, sur le fond, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt d'accord, mais elles veulent être le camp, et j'ai presque envie de dire la génération, qui a raison par rapport à l'autre. Et c'est hyper triste, en fait. On s'en fiche de savoir qui a raison, c'est pas une compétition. Le but, c'est que les hommes et les femmes soient sur un terrain équitable. Et je comprends pas qu'elles continuent à se tirer dans les pattes comme ça. Je soupçonne un peu pour un certain camp, je dirais pas lequel, une haine des hommes. Mais c'est un avis très personnel. Pour le coup, j'ai pas de preuves, c'est juste du fait de mes fréquentations, vu que j'ai pu côtoyer certaines femmes de ce clan. J'emploie vraiment le mot clan en toute conscience, quoi.
Mais oui, mais je pense que c'est nécessaire, parce que c'est ça.
Hein. Oui, cette idée d'opposition qui me fait hyper mal. Mais et encore une fois, c'est raccord avec la multipotentialité. On est dans un truc de dès que quelqu'un pense différemment de soi, ça va pas. Faut rentrer dans sa petite case, faut pas faire de bruit, faut être comme ci, comme ça, selon un modèle prédéfini. Et dès que tu oses dire un petit peu les choses différentes, on dirait qu'il faut 10 ans pour faire accepter une idée, quoi. Alors que, je sais pas, on devrait juste avoir une tolérance de « ah, tu penses différent de moi que... » Non, tu penses de façon différente de moi. And so what, quoi. Ok, je vais y réfléchir ou je suis pas d'accord, mais... Ok, bisous, quoi. Enfin, je comprends pas trop
ce soupçage de tête. Tu as utilisé le terme, d'ailleurs, pour ça, « tribunal de la bien-pensance ». Ouais. Sur Twitter. Oh non, mais je trouve qu'il est très juste ce terme, parce qu'on en parlait avec d'autres invités. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Il faut surveiller vraiment le moindre mot et la moindre opinion. Il faut toujours avoir des opinions qui soient politiquement correctes, du bon côté, ouais, qui gênent personne, etc. Mais c'est assez dur d'avoir une opinion qui ne gêne personne, comme on dit. On ne peut pas plaire à tout le monde.
C'est le but d'une opinion. De toute façon, elle va forcément gêner, parce que sinon, on serait tous pareils et ça n'aurait aucun intérêt. On serait une chaîne de duplication qui se reproduit à l'infini. Ça serait hyper triste et moche. Enfin, on pourrait faire un épisode de Black Mirror avec ça, quoi. Ouais. C'est ça, l'intérêt, c'est d'être différent. Et forcément, on va gêner. Mais, et alors, fréquentons des gens qui nous ressemblent un petit peu pour la zone de confort, fréquentons des gens qui ne nous ressemblent pas pour l'ouverture d'esprit, et ça fera un super monde, quoi. Et je vais quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Alors, le tribunal de la bien-pensance, c'est pas tout à fait une expression de moi, c'est une expression de mon chéri qui l'a trouvé en premier, parce qu'on en parle souvent, et il est assez futé sur ce genre de choses, et j'ai complètement repris son expression à mon compte parce que je la trouve géniale. Mais voilà, il me pardonnera.
Et toi, justement, tu parlais du fait que les multipotentiels n'étaient pas forcément bien vus, que les femmes aussi n'ont pas la place qu'elles devraient avoir. Et le fait, justement, d'être une femme multipotentielle, est-ce que toi, tu sens, est-ce qu'il y a une différence entre... Tu penses que c'est plus facile d'être un homme multipotentiel qu'une femme multipotentielle, sans doute ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Je suis mitigée, laisse-moi 2 secondes de réflexion. je sais pas, je pense que d'une manière générale, c'est pas évident d'être multipotentiel et en même temps, c'est une chance. Et dans mon cas, pour ajouter à ma cause, je suis zèbre. Donc, ah mon Dieu, le combo.
Voilà, parlons des choses qui sont... Hein. On fera un sujet sur ça, donc je pense que on reviendra sur ça.
Ok. Et du coup, ça fait un combo encore supplémentaire de caractéristiques gênantes. Et est-ce que c'est plus dur pour un homme ou une femme ? Disons que je pense que la chose est dure pour tout le monde, mais peut-être que le côté d'être une femme, ça rajoute le côté hystérique en plus. Mais finalement, un défaut de plus ou un défaut de moins, est-ce qu'on est à ça près ? On va peut-être dire que c'est à peu près pareil pour tout le monde quand même.
Je pense que dans la chasse des défauts, malheureusement, on ira toujours en chercher un. Donc, si c'est pas une femme, il y aura autre chose qui rentrera en compte et tout. Donc, du coup, je vais rebondir sur le zèbre, parce que là, tu viens de toucher un point qui, pour moi, est sensible, parce que je le suis aussi. Et il y avait quelque chose sur laquelle je m'intéressais par rapport notamment au multipotentiel et au slasher, donc, qui était justement, même chose, on retrouve le potentiel, le mot potentiel. Donc, souvent, le zèbre, on parle de haut potentiel.
Ah oui.
Et ça fait très peur. Dès qu'on parle de haut potentiel, les gens disent non. Quand on parle de zèbre, là, d'un coup, ça adoucit tout le monde.
Oui, c'est vrai. Comme quoi, c'est une histoire de marketing.
Il y a une histoire de marketing, mais on retrouve toujours ce mot potentiel. Donc potentiel, la personne qui pourrait se déployer les ailes ou aller beaucoup plus loin. beaucoup
ou
plus
être potentiellement
longue que les autres.
fuyante.
Oui, ou peut-être, oui, ça peut être aussi, effectivement.
Pardon, je
non,
fais
mais tu es, c'est vrai.
Le mauvais diable. Mais ouais, pardon, je te laisse lui dire.
Non, il n'y a pas de souci. Et alors qu'en fait, justement, par rapport au multipotentiel, ce dont on parlait avec Julien la dernière fois, je disais qu'il y avait peut-être au niveau des multipotentiels quelque chose qui découlait plus du zèbre, alors que le slasher pouvait peut-être venir plus du monde du travail, de quelque chose qui était vraiment une organisation de bah, je vais m'organiser plusieurs jobs parce que j'ai, ça, je sais le faire, ça, je sais le faire, ça, je vais le faire. Et quelque chose, oui, qui venait plus de l'entreprise. Je voulais savoir ton avis, du coup.
Ouais, un côté plus psychologique versus quelque chose de presque ergonomique, en fait. Bah, en plus, surtout que... Alors, je connais plus de zèbres que de multipotentiels parce que j'ai su que j'étais zèbre avant d'être multipotentiel. Enfin, ça va avec, mais disons que j'ai été diagnostiquée. Et c'est après, en faisant des recherches, etc., que j'ai fait « Ah, multipotentialité, ça va avec, c'est marrant, tiens donc ». Et du coup, la chronologie a fait que j'ai connu plus de zèbres, mais qui se révèlent la plupart du temps, on va dire à 99%, être tous aussi multipotentiels. Donc, je me demande presque si c'est pas une condition, enfin, si ça fait pas partie du packaging, quoi.
Alors, il y a justement certaines théories qui parlent que le zèbre aurait plus de facilité à être multipotentiel, mais que le multipotentiel n'était pas forcément un zèbre. D'où justement il y avait cet arrivage du mot slasher que moi j'ai découvert il y a une ou deux semaines, et en lisant deux livres vraiment radicalement différents, un parlant vraiment de slasher et un autre parlant vraiment de multipotentiel, j'ai vu cette part en tout cas émotionnelle dans le livre du multipotentiel, qui est notamment celui d'Emily Watnick, qu'il n'y avait pas dans l'autre, qui est le livre de... C'est des barbes.
Ouais.
Une mini barbe, c'est ça, je crois.
C'est pas Muriel Barbe ?
Muriel Barbe, merci.
Ouais, qui est une journaliste spécialisée.
Exactement, et qui est d'ailleurs un livre qui est passionnant. Mais ouais. C'était deux approches radicalement différentes, une très émotionnelle et une qui était quand même beaucoup plus, qui moi en tout cas actuellement m'a apporté des réponses sur des questions qui étaient d'ordre pratique, notamment profession slasher, où on était dans quelque chose de très pratique. La part émotionnelle est abordée et plus petite, mais elle est abordée. Donc c'est pour ça que c'est une question que je me pose beaucoup par rapport aux zèbres et aux multipotentiels, parce que c'est quelque chose, je vois des approches différentes. J'ai des amis qui sont des slasheurs clairs et nets, mais j'ai des amis qui sont des multipotentiaires clairs et nets. Et je vois la différence aussi, que souvent le multipotentiel va justement avec ce zèbre.
Mais complètement. Et en fait, pour être totalement transparente, plus le temps passe et moins je me sens slasheuse, en fait. Plus j'accepte ma zébritude, et enfin mes rayures comme dit l'expression consacrée, et ma multipotentialité, moi je me sens slasheuse, parce que c'est, enfin ouais, c'est vraiment l'idée de pour moi d'un confort de travail. En gros, tu t'aménages ton emploi du temps pour te rendre une vie plus belle, alors que la multipotentialité, c'est hey, viens ma cocotte, apprends-toi à découvrir, tu vas voir, tu vas un peu chier mais ça va être marrant à la fin, t'es née comme ça et fais-en quelque chose de bien, en fait. Vois pas ça comme un boulet à ta cheville, vois ça comme un atout pour vivre. Mais je pense qu'en fait, enfin, c'est pas pour faire des comparaisons pour qui c'est le plus dur, mais je pense qu'il y a un travail quand même pour arriver à être confort avec tout ça, qui est un peu plus important chez les multipotentiels, parce qu'il faut justement appréhender toute cette notion d'émotion à partir du moment où ça touche, et parfois très fortement. C'est forcément plus long, c'est des processus parfois plus durs aussi, qui n'ont pas forcément lieu d'être, mais enfin, les émotions, ça va, ça vient, et si elles te touchent, elles te touchent, c'est comme ça, en fait. Il faut arriver à avancer.
Mais c'est tout à fait vrai, et c'est vrai que cette gamme émotionnelle est très, très, très présente chez le multipotentiel. Du coup, tu parles du ZEM, tu dis que tu t'es rendu compte de ça petite, donc du coup, il y a eu aussi probablement du multipotentiel quand tu étais jeune.
Alors, petite, alors, c'est une histoire un peu bizarre, je pense que j'aurais jamais le fin mot. C'est-à-dire que je le sais depuis toujours, mais en réalité, je suis diagnostiquée que depuis 3 ans. Parce que j'ai passé des visites médicales quand j'étais petite et j'ai un souvenir très net et très flou en même temps, c'est-à-dire que les images sont très nettes, mais le scénario est un peu flou dans ma tête, où je vois un médecin de la visite médicale, je devais être en grande section ou en CP peut-être, dire à ma grand-mère qui s'occupait de moi, il faut qu'elle aille voir un psy, il y a une précocité, il faut faire quelque chose. Et comme ma mère a beaucoup sauté de classe et beaucoup redoublé quand elle était petite, ma grand-mère a dit, non, 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 c'est mort, pas du tout, on ne va rien faire, on va la laisser là où elle est, c'est très bien, et ça va se passer comme ça. Et du coup, rien n'a jamais été fait, et ma mère n'était même pas au courant de ce qui avait été dit, donc c'est un peu un espèce de petit secret de famille. Et c'est moi, en lisant des articles à partir de 25 ans, qui me suis dit quand même, il y a un truc, et puis ça me taraude, je continue à me documenter, finalement je vais voir un psy et je passe un test. Et pour en avoir parlé avec ma mère, ma grand-mère ne lui a jamais fait part de tout ça. Mais elle se reconnaît aussi beaucoup là-dedans, donc il y a quelque chose de peut-être même de génétique. Alors j'aurai jamais le fin mot de l'histoire parce que ma grand-mère n'a plus toute sa tête, donc je ne saurais pas comment c'est passé. Mais du coup, oui, je pense que ma mère a dû sentir des choses inconsciemment parce qu'elle m'a bardée d'activités quand j'étais gamine. J'ai fait, bon, peut-être pas tous les sports, mais j'ai fait beaucoup de sports. Et puis surtout, je faisais le conservatoire, qui était du coup un enseignement un peu à haut niveau aussi parce que ça me prenait tous les soirs de 17h jusqu'à 22h. J'ai fait du violon, du piano, du chant lyrique, de l'orchestre baroque, de la musicalité par ordinateur, du solfège, du chant choral, du... je sais plus. Enfin, en fait, j'ai fait toutes les activités que je pouvais faire au conservatoire dans lesquelles je pouvais m'inscrire. Sauf qu'à l'époque, je disais pas que c'était parce que j'étais multipotentielle. Je disais que c'est parce que je vivais à Brest et que je m'ennuyais dans cette ville qui était trop petite pour moi. Non, mais c'est comme quoi, je disais non, mais il n'y a rien à faire dans cette ville, c'est horrible, je m'ennuie, je me sentais étouffée. Et jusqu'à mes 18 ans, où je me suis barrée, je disais, mais qu'est-ce que j'en peux plus de cette ville, il n'y a rien à faire. Et du coup, je me suis cloisonnée dans le conservatoire, presque, parce que c'était mon échappatoire, c'était mon truc pour être équilibrée. Et ce n'est pas un regret, parce que je l'ai poussé à fond et j'ai vécu plein de belles choses avec ça. Mais quelque part, je me dis peut-être que si j'avais pas eu ce truc de je suis dans une ville trop petite, j'ai que le conservatoire pour être heureuse, bah, j'aurais peut-être eu l'occasion de découvrir encore plus de choses et du coup la multipotentialité encore plus tôt. Et du coup, j'aurais pu en faire encore plus et plus et plus.
Et, et d'ailleurs, depuis que tu as découvert, donc, que tu t'es diagnostiqué. Merci, aidez-moi s'il vous plaît. Je couperai ça en montage, hein, non, je rigole. Ouais. Multipotentiel, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi?
Je pense que ça accélère des processus en fait. Parce que c'est marrant, je lis ça sur Facebook, je vois plein de femmes qui ne veulent pas être diagnostiquées, ou d'hommes d'ailleurs. Mais je pense à une femme en particulier dont je lisais un témoignage. Il y a la peur. Il y a la peur de se trouver un peu prétentieuse, il y a la peur de, bah, ok, qu'est-ce que j'en fais après. Mais finalement, une fois que c'est fait, bah, ça met des mots sur des choses. Ça met dans une communauté aussi. Je ne suis pas forcément hyper communautaire, mais. C'est quand même agréable de rencontrer des gens qui nous comprennent et qui nous ressemblent un petit peu. Des fois, c'est perturbant, mais il y a quand même quelque chose d'assez smooth, d'assez doux, qui fait vraiment du bien quand les rapports sociaux peuvent être un petit peu frictionnels parfois, surtout dans le monde du travail. Plus on grandit, alors quand on est jeune, on a des amis, ça passe, mais quand on grandit et que le monde professionnel prend une place importante et qu'il peut avoir ces frictions-là, c'est quand même très chouette de pouvoir se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Et du coup, ouais, le fait d'être diagnostiqué, ça... Ouh, ok, d'accord, très bien, ça va se passer comme ça, et puis ben, qu'est-ce que j'en fais? Et puis, ben, comme tu le sais, ben, tu es obligé de prendre des décisions, tu es obligé de t'en faire quelque chose, donc tu avances et ça accélère le processus de ce que tu fais de ta vie. Je pense que mon retournement dans ma tête, de A à Z, il a pris 1 an et demi, alors que ça fait peut-être 15 ans en fait que je le cherche.
Alors, tu viens de dire une chose qui pour moi est essentielle et qui a été l'essentiel de un de mes parcours, en tout cas dans tout ce qui est le développement personnel et notamment la psycho, c'est le qu'est-ce que j'en fais. Ce terme, qu'est-ce que j'en fais, moi, avant d'être diagnostiquée ZEB, j'étais diagnostiquée hypersensible. Enfin, je suis passée par plein d'étapes et à chaque fois, c'était...
Le diagnostic hypersensible, c'est vrai. Voilà.
Mais c'est... Alors, comme a dit gentiment mon psy, il m'a dit, j'ai dû passer par là parce que si je te donnais cash le mot zèbre, au revoir, quoi, je te perdais. Ce qui était tout à fait vrai et tout à fait pertinent de sa part. Mais ce qui était intéressant, c'était justement le... Ma réaction, c'était pas comme j'ai pu lire sur certains forums, parce que bien évidemment, tu me donnes quelque chose, je vais m'y intéresser à fond. Ouais. C'est le principe justement du multipotentiel. Et sur ces forums, sur ce genre d'endroits, je trouvais des gens qui étaient un petit peu catastrophés.
Oui, c'est
le,
vrai.
Voilà, et le qu'est-ce que j'en fais, c'était bon, bah, très bien, ok, tu m'as dit ça, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Le multipotentiel, c'est la même chose. Ok, bon, maintenant c'est ça. J'ai eu des amis qui m'ont dit, mon Dieu, mais comment tu vas gérer ça et tout? Bah, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est quelque chose qui est une notion qui est très importante. Comment je le transforme? Cette chose, comment est-ce que je la transforme?
Ah, c'est ça. En fait, quand je me rappelle, quand je l'ai vécu, je me suis précipitée pour voir mon chéri en mode, viens, on va déjeuner, il faut qu'on débriefe. Là, j'ai un truc à te dire hyper important. Parlons-en, quoi. Et il y avait ce côté un peu, ouais, qu'est-ce que j'en fais? Attends, ça fait flipper. Là, il y a un horizon de possible qui s'ouvre. Enfin, du coup, il n'y a plus un petit couloir droit devant moi. Je suis face à un loft. Il va falloir l'aménager. C'est assez dingue, c'est un peu impressionnant. En même temps, ça m'excite un peu. Et j'ai ce truc un peu inavoué, mais avouable. Comme si on te disait, ah, t'as toujours rêvé d'être chanteuse, et bah tiens, prends le micro et fais l'Olympia, tu vas voir, tu vas déchirer, ça va super bien se passer. Genre, ah ouais, quand même, en fait, il y a tout ça à faire, okay, ça va être un truc de ouf. Ce truc un peu de pas de rockstar, dans le sens, je me sens hyper waouh, mais dans le sens de, ah ouais, on va pouvoir faire des trucs vraiment incroyables maintenant. Et du coup, je crois que c'est cette dimension qui a pris le pas chez moi, en mode, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de m'éclater, de pétiller de partout, de faire comme un soda dans ma vie, quoi. D'être un coca géant, en fait, et qu'on me remue, et enfin, j'étais hyper impatiente, en fait.
C'est rigolo, parce que moi, l'expression que j'avais quand j'ai découvert juste après, que j'expliquais à mes amis, je disais, je suis comme un Jack Russell sous cocaïne. Donc, quand j'ai des idées, c'est comme un Jack Russell sous cocaïne, ça part dans tous les sens, et à un moment donné, il va se calmer, mais voilà.
Déjà, le Jack Russell de base, c'est pas mal, mais alors c'est pour cocaïne. C'est exactement ça, c'est vrai. On fait quoi? On y va. Allez, oui, allez, je commence. Là, bah, là, putain, vas-y, c'est trop cool. Il y a vraiment ça, quoi.
Je trouve ça très intéressant. En fait, tu t'assumes complètement en tant que multipotentiel et tu as envie de faire plein de choses, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce terme et que je me suis dit, ça y est, je suis normal, quoi. Mais on est face à une problématique et j'aimerais bien que tu nous en parles. Est-ce que tu arrives à te concentrer sur une seule tâche, à te focusser sur une seule tâche? Tu vois, on a un peu tous le même problème. Toi, comment tu fais?
Attends, je vais juste répondre à un truc que tu as dit en début de phrase. Tu as dit tu t'assumes complètement. Il faut quand même que je précise qu'en vrai, je m'assume depuis que j'ai quitté Radio France. Parce que le milieu professionnel, je pense, me renvoyait une image qui me faisait très mal. Et je pense que j'ai encore des petits restes à choux pour digérer ça, qui ne m'aidait absolument pas. Le cadre institutionnel, fonction publique, entreprise publique, grosse entreprise, le paquebot à déplacer, où il faut demander 1000 autorisations pour faire un truc et il ne faut surtout pas lever le petit doigt, je pense, me gênait terriblement. Du coup, l'assumation, elle est assez récente finalement, quoi. Et c'est bien plus agréable. D'ailleurs, la transformation se voit. Et du coup, quelle était la question?
Non, mais en fait, tu peux continuer à parler de tes expériences passées, ton ressenti, et on pourra revenir sur le fait de comment tu te focuses, comment tu te concentres sur une seule tâche. Mais c'est vrai que c'est intéressant, on n'a pas encore abordé ce sujet. Tu te sentais, toi, comme pris au piège, enfin en tout cas muselé?
Ouais, comme à Brest, je me sentais enfermée, et en plus, je me sentais pointée du doigt. Genre, elle est différente. Genre, mais vraiment, alors que c'est inconscient, hein, mais je sentais un truc de « ah, celle-là », quoi. Et en plus, je pense que j'étais pas en odeur de sainteté, pour être tout à fait honnête avec tout le monde, même si j'ai noué de super belles relations, il y en avait aussi qui étaient catastrophiques. Et je pense que ces personnes, je développais chez elles, alors je saurais jamais précisément quoi, mais quelque chose de vraiment très négatif, de très néfaste et de presque haineux, qui du coup ne tolérait pas que je puisse être différente, mais qui ne s'en rendaient pas compte qu'elles avaient cette intolérance-là, qui trouvaient 1000 prétextes débiles pour dire que j'avais tort sur plein de choses et qu'elles avaient raison d'essayer de me rabaisser. Je me pose pas du tout en victime pour dire tout ça. Hein. C'est y a rien de pour le coup, il y a plus grand chose d'émotionnel. C'est vraiment un constat froid de les personnes ne se rendent pas compte, mais on provoque quelque chose chez elles et leurs réactions en retour sont épidermiques et elles sont néfastes vraiment.
Alors juste, excuse-moi de te couper, mais en fait, n'aie aucune crainte sur ce que tu dis, parce qu'on se reconnaît complètement. On aurait pu tenir exactement le même discours, hein, que tu as dit. Donc,
c'est des discours qu'on a tenus quand on parle tous les deux. Effectivement, c'est ça qui, c'est pour ça que là, depuis tout à l'heure, je le vois, tu le vois pas, mais il a le smile jusqu'au ciel. Oui, moi aussi, c'est sûr, mais parce que c'est vraiment, là, on est vraiment en plein dans le sujet qu'on veut traiter. C'est vraiment ça, c'est ce genre de choses. Le fait de sentir au travail, pas, alors c'est pas forcément jugé, mais il y a quelque chose qui dérange dans la facilité.
Ah, c'est jugé. Ah ouais.
Oui, il y a du jugement. Après, parce que moi, je pensais à certaines personnes, donc c'est des termes que j'essaie de ne pas avoir. Mais effectivement, oui, il y a du jugement aussi. Mais sur le fait, la facilité qu'on peut avoir certaines choses, ou même la communication, la facilité de communication. Et en fait, cette dureté qu'on vit dans le monde du travail, d'où ce côté, je reviens sur le multipotentiel, à la différence du multipotentiel et du slasher. Le slasher aura beaucoup plus de facilité à marketer, j'ai l'impression, que le multipotentiel qui, au milieu de ça, il y a son émotionnel qui fait « mais qu'est-ce que...
Oh, ouais. qu'est-ce que vous me faites là, les gars? Pourquoi pour... Je ne mérite pas ça, quoi, en gros. » Ouais, non, mais je revois des images en même temps qu'on en parle d'attitude de certaines personnes. Parce que je l'explique aussi parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas multipotentiels et qui sont comment on dit, j'ai plus le terme, mais qui n'y croient pas trop, en fait, qui peuvent écouter ce podcast et essayer de leur faire comprendre que je me pose vraiment avec du recul pour expliquer tout ça et que je n'essaye pas de prêcher pour ma paroisse en mode vous avez vu comme c'est incroyable ou comme je me suis fait maltraiter. C'est vraiment froidement une réaction que je sais, du coup, maintenant que. Mais à la réflexion, ça arrivait aussi quand j'étais petite parce que j'ai pu avoir des relations amicales qui se sont mal finies. Comme dit ma psy, c'est extrême. C'est super bien ou c'est super à chier. Et c'est j'adore ou je hais, en fait. Et je pense que les gens ont presque la même réaction envers moi. Je pense qu'ils m'adorent ou qu'ils me haïssent profondément. Et je pense par exemple à une personne, je pense qu'elle me hait du plus profond d'elle-même. Et ça me fait rire parce que du coup, ma pauvre, en fait, quel temps perdu. Après, c'est l'histoire de la vie, pourquoi les gens sont méchants, pourquoi ils font ça, c'est horrible, c'est pas cool, ils ont que ça à faire. Mais je sais pas si c'est une histoire d'expliquer aux gens que si, tu es normal, parce que tu es multipotentiel, que tu es juste différent et que c'est pas grave, c'est comme les pensées d'opposition sur le droit féminin. Mais il y a une... En fait, je crois qu'il y a les gens qui sont frustrés dans leur univers professionnel n'arrivent pas à admettre qu'une personne... puisse essayer de trouver des biais pour s'en sortir et ne respecte pas un certain processus d'avancement, on va dire. Parce qu'il y a quand même ça aussi, il faut quand même souligner, je ne parle pas au nom de tout le monde, je vais parler au nom de moi-même, je ne respecte pas le processus hiérarchique de l'entreprise. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, je vais aller voir moins de plus un et je vais dire « Hey, on pourrait faire ça, ça serait trop cool, ça permettrait d'avancer ». Et c'est peut-être une bonne idée, mais n'empêche que je n'ai pas le droit de le faire, donc on va me dire « Merci, retourne à ton bureau ». Et ça va me rendre malheureuse, et mon chef va te dire « Mais pour qui elle se prend ?» Mais n'empêche que ça aurait pu être une solution. Mais ma position fait que je n'ai pas le droit de le faire. Et moi, en tant que multipotentiel, ou en tant que zèbre, je ne le comprends pas, et puis en plus, je ne le conçois pas, et je ne l'admets pas. C'est « Mais les gars, il faut faire quelque chose, là, on s'en fiche que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le dise, faisons quelque chose ». Et dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré des gens avec qui c'était tout ou rien. Il y a ceux qui ont détesté que je fasse ça, et il y a ceux qui ont adoré que je fasse ça, et avec qui je collabore encore aujourd'hui. Parce que du coup, on a des relations qui sont complètement dans l'échange, qui sont assez horizontales aussi finalement. Même s'il y a un lien hiérarchique, on ne considère pas que les personnes ont plus de valeur l'une que l'autre. On considère que les positions professionnelles ont une hauteur par rapport à l'autre, mais que ça n'empêche pas l'échange. Et du coup, les projets professionnels avancent beaucoup mieux. Et je suis vraiment en recherche de travailler avec des gens comme ça parce que, enfin, quel plaisir, quelle douceur en fait.
Avec quel plaisir, moi, je peux vraiment t'en témoigner du fait déjà que Julien et moi, on travaille ensemble, on se rend compte aussi de la différence que de travailler avec des multipotentiels. On est aussi pour un autre projet, on travaille avec quelqu'un d'autre qui est aussi multipotentiel. Il y a vraiment une différence dans la façon de travailler parce qu'on connaît nos faiblesses, on connaît, comme Julien te posait la question tout à l'heure, est-ce que tu es quelqu'un qui peut s'éparpiller? Déjà, on sait que dans l'oralité, on a tendance à s'éparpiller, un sujet nous plaît, paf, on va partir sur celui-là, puis sur l'autre, et puis sur l'autre. Et puis en fait, tu as pensé à ça, et puis au bout de 20 minutes, on va regarder en disant, mais en fait, on n'a pas du tout fait ce dont on devait faire. Donc, et au moment où on va recommencer, hop, on embraye. Mais ça change parce que du coup, il y a cette liberté. La liberté totale de pouvoir être qui on est.
C'est ça.
Et de pouvoir être compris aussi dans le fait que on sait qu'on a tendance à partir à fond dans un truc, mais peut-être qu'on ne va pas y aller au bout parce qu'on cherche quelque chose qui va nous amener sur autre chose et puis sur autre chose.
Mais alors, complètement. Complètement. Tu sais que j'ai payé une école de théâtre professionnelle exactement pour cette raison-là pendant un an. Genre, je me suis lancée en mode « Ouais, je vais être actrice, ça va être trop génial !» J'ai payé un bras pour payer cette école, pour faire 12 heures de théâtre par semaine. Et elle pourra, au bout d'un an, dire « Bah, en fait, non, j'ai plus envie. »
Mais ça, c'est...
En fait, j'étais venue chercher autre chose.
Mais c'est ça, en fait. C'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre quand on parle de ces envies et de ces moments de... Moi, c'est mon Jack Russell qui part à fond d'un côté et que mes potes me regardent en disant « Mais comme d'habitude, tu vas partir là-dedans et qu'est-ce qu'on en fait ?» Et le fait de se dire qu'on va chercher une information et qu'une fois qu'on l'a, « Ah ben c'est bon, c'était ça que je voulais, c'est validé. » Et revenir en arrière, les gens voient ça comme de l'instabilité.
Alors que non, en fait.
Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'on cherche. Et c'est vrai que pour nous aussi, à certains moments, c'est un petit peu difficile de définir exactement qu'est-ce que je suis venue chercher là-dedans.
Ouais, mais plus tu avances et plus que tout ce que tu as cherché au fur et à mesure de tes recherches, eh ben, elles te servent et tu vas plus vite finalement quand tu vas chercher d'autres choses. Et du coup, tu as des réflexes qui se mettent en place aussi parce que tu as quand même un gros travail de défrichage qui est fait à un moment. Enfin, à 31 ans, je me sens comme ça. Je me sens, ok, au début, c'était peut-être un peu Capharnaüm. Maintenant, je commence à avoir une chambre un peu plus rangée et elle est grande et je sais à peu près dans quel tiroir aller chercher des trucs. Alors, j'ai envie de continuer à chercher comme ça. Mais n'empêche que du coup, j'ai à ma disposition beaucoup d'outils. Et peut-être que je vais prendre une heure sur une journée ou quand je suis censée faire une tâche où je vais m'éparpiller pour aller chercher autre chose. Mais si ça ne me sert pas pour cette tâche précise, ça me servira forcément à un autre moment et ce n'est pas grave. Et le fait d'avoir réussi à aller chercher ces nouvelles choses, bah finalement, quand je reviens à la première tâche que je suis censée faire, pour répondre à la question du focus de Julien tout à l'heure, je sais que je me suis éparpillée, mais je reviens, je reprends le fil. Et finalement, je reviens à ma tâche et comme j'ai la satisfaction d'avoir trouvé de nouvelles choses, et ben la première tâche, je l'effectue plus rapidement, je trouve.
Mais il y a de ça et puis je me pose la question aussi à combien est-ce que quand on nous donne une tâche, on n'a pas besoin d'aller voir à côté 1000 choses pour revenir avec une façon différente de la voir, de l'exécuter. Mmh. Et comme tu disais, en fait, je vais aller chercher des infos à côté qui, a priori, n'ont absolument rien à voir. Mais comme par magie, quand je vais bien les avoir intégrées et comprises, je reviens à ma tâche et puis hop, je peux les intégrer dedans. Et ça va me donner une vision différente aussi.
Typiquement, avant qu'on fasse le podcast, là, j'étais en train de travailler sur une vidéo et à un moment, je me suis dit, tiens, si j'allais chercher des typos sur Internet, je ne sais pas pourquoi, hein, j'en ai pas besoin, mais du coup, je viens de passer une demi-heure à aller chercher et télécharger des nouvelles typos que j'ai mis dans mon livre de typos de mon ordinateur. Donc, ça ne me sert pas du tout pour maintenant, mais je sais que ça me servira peut-être pour la prochaine vidéo et au pire, j'ai des visuels du coup qui se sont gravés un peu inconsciemment dans ma tête qui vont rester et qui vont servir pour inspirer d'autres choses. C'est un peu, vous savez, c'est... Alors, image de Bretonne, parce qu'à Brest, il pleut tout le temps. C'est l'eau qui monte par capillotraction dans ton jean parce que tu marches sur le trottoir et qu'il est humide. Oui. Vous voyez l'idée ? C'est exactement ça. C'est, ouais, tu te dis que c'est peut-être un peu lourd le bas du jean parce qu'il est trempé, mais finalement, c'est plein d'idées qui montent et au bout d'un moment, bah, tu as peut-être ramassé pas mal de minéraux un peu cool dans la terre, quoi.
C'est une belle image.
Hein. C'est, oui, très, très parlant. Mmh. Top. Mmh.
Alors, j'ai détesté ça toute ma jeunesse. Hein. J'avais les pieds mouillés tout le temps, c'était super relou.
Je pense que tout le monde déteste ça. Mais du coup, la transformer en quelque chose de positif, c'est cool.
C'est ça, j'essaye. J'ai pas encore trouvé pour la frange qui rebique.
On connaît pas ça, nous, Anis.
Ouais. Si, non, moi je connais, là. En ce moment, tu rigoles ou quoi ?
Oh, tu plais de goût. Ouais, pour revenir à ce que tu disais sur les personnes qui comprennent pas, je pense... On ne va pas non plus rentrer dans le processus, voilà. Mais on va essayer peut-être de les comprendre. La manière dont ils ont été élevés et la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous impose ces visions. Et ce qui fait que c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut avoir une image de personnes soit qui se mettent trop en avant parce qu'ils ont fait toutes ces choses et la plupart du temps, c'est vrai qu'on arrive à... Voilà, on se la pète parce qu'en plus, au bout d'un moment, on arrive à prendre des raccourcis pour apprendre des choses, etc. Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir cette image de, ouais, il est éparpillé, et puis il apprend vite les choses, ça m'énerve parce que moi je dois passer plus de temps, mais on se prend pas pour des surhommes, et d'après ce que tu m'as dit aussi, on fait ça de manière honnête, de manière authentique, parce que ça nous intéresse. Ah
oui. Et parce que ça peut servir à l'intérêt collectif aussi, voilà. En fait.
Et la plupart d'entre nous, on a ce côté formateur, on a ce côté vecteur dans l'information, dans le sens où, une fois accumulée cette information, on a envie de la transmettre, on a envie de la partager, sans qu'il y ait de filtre, sans qu'il y ait de... Comme nous, on l'a compris, comme nous, on l'a ressenti.
Oui, c'est vrai.
Voilà. C'est peut-être pour ça que, quand tu étais, toi, sur France Bleu, quand il y a ces filtres, tu te sens muselé et tu ne peux pas laisser parler ton côté émotionnel qui aiderait à la compréhension, qui t'a aidé à la compréhension. Et c'est juste une volonté de partage, pas une volonté de « m'as-tu vu ?» C'est pas une... Voilà.
En fait, c'est exactement ça. C'est vraiment en mode, hey, les copains, regardez, il y a un truc trop cool, quoi. Et pas, regardez ce que je sais faire. C'est, viens, on partage un truc, je vous promets, vous allez kiffer. Mais comme tu disais au début de ta phrase, les gens n'ont pas été éduqués. Enfin, c'est un truc, en fait, je pense que quand j'ai arrêté Radio France, c'est lequel sur lequel j'ai le plus réfléchi et le plus cogité. Pourquoi les gens font ça ? Parce que du coup, vu que je me suis brouillée avec certaines personnes, j'aurais jamais les réponses. Mais et je sais pas si je les veux d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai réfléchi et je suis assez d'accord sur l'idée d'éducation. Et en même temps, je suis assez intolérante à cette idée aussi parce que j'ai aussi ce défaut-là. C'est que Bah, en fait, merde. Pourquoi vous pouvez pas être ouvert d'esprit, les gars, tout simplement, quoi, quand les gens sont différents? C'est pourquoi? Parce que l'éducation, parce que machin. Alors, je veux bien, c'est dur, tu as été moulé comme ça. C'est dur de s'extraire d'un carcan dans lequel on t'a obligé à te mouler. En fait, j'ai vachement de respect pour les gens qui s'en sortent de ce carcan-là et qui pensent différemment. Je dis pas de penser anarchiste, de façon anarchiste, mais juste d'arriver à sortir de son moule éducatif pour regarder le monde tel qu'il est avec ses aspérités. Et les gens que j'ai de précieux dans ma vie, c'est que des gens qui font ça. Parce que j'ai vraiment du respect pour les gens qui sortent des clichés et des prédispositions. Et je crois qu'à l'inverse, j'ai une intolérance énorme pour les gens qui ne le font pas, parce que je crois que j'ai un peu tendance à considérer que c'est de la flemme. Que, oh non, c'est trop dur, je vais pas le faire. Je préfère dire que c'est la personne en face qui a le problème plutôt que d'essayer de voir les choses de l'autre côté.
Ça peut être de la peur aussi, hein. La peur de sortir
Moi, c'est
de son
pareil.
espace de. Ouais, si tu veux.
Ouais, non, mais si, je suis d'accord, ça peut carrément être de la peur. Mais c'est. Enfin, vivre pour avoir peur, enfin, il y a un
Ouais.
moment.
J'avais écouté une interview hyper intéressante il n'y a pas longtemps, dont évidemment j'ai oublié le nom de la personne qui parlait, mais je le mettrai dans les notes du podcast, qui disait que ben, lui s'était forcé à faire un stage à l'opposé, il s'occupe de tout ce qui est écologie et tout, et en fait à l'opposé vraiment, il allait dans l'industrie pour voir un peu leur manière de fonctionner, pour comprendre en fait quelle était leur vision, et pour pas garder sa vision uniquement. Non, non, mais c'était super
Non,
intéressant.
mais tu sais que c'est ça que j'ai fait
Ah ouais.
à Radio France. En fait, quand j'ai voulu passer en national, je suis passée donc à Move, qui est une radio hip-hop. Alors, je dis pas du tout ça pour leur cracher des mauvaises choses, mais maintenant je peux le dire parce que je n'y suis plus. Je hais l'hip-hop. Je viens du conservatoire, je viens de la musique classique, j'adore le jazz, en plus, je suis passée à TSF Jazz, c'était la plus belle expérience de ma vie. Et j'ai été dans cette radio de hip-hop, alors que je sais que je déteste cette culture, elle ne me correspond pas du tout. Mais j'y suis allée en me disant, mais je vais apprendre plein de trucs. Il ne me ressemble pas, ça va être différent. En plus, c'est un peu le courant tendance. Donc, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les anime, les gens qui adorent cette culture, quoi. Et j'y suis vraiment allée un peu aussi pour ça, quoi. En mode, c'est l'inverse de moi-même. Ça va être trop cool comme expérience. Donc, bon, en l'occurrence, je pense que j'aurais pu être peut-être même mieux si j'étais une meuf du hip-hop. Mais c'était quand même, du coup, formateur.
Ouais, c'était formateur quand même. Tu as quand même appris et tu as réussi quand même à te mettre à leur place. Est-ce que toi, ça t'a apporté humainement quelque chose ou tu penses que non, c'était juste une expérience comme ça?
Bah, ça m'a apporté mon chéri, donc ça m'a apporté
Un peu
pour la plus
déjà.
belle chose du monde, c'est déjà ça. Dans la compréhension de l'autre, je pense que j'ai compris les gens. Je ne suis pas sûre qu'ils m'aient comprise. C'est dommage d'ailleurs. Je pense que certaines personnes, si. Et je pense que j'aurais pu aller même plus loin avec d'autres personnes, ou j'aimerais bien, peut-être à l'avenir, c'est peut-être pas fini, aller plus loin avec certaines personnes. Il y a quand même un petit peu, si je suis honnête, un truc hermétique de quand t'es pas du... Après, c'est peut-être spécifique au hip-hop, mais quand t'es pas du hip-hop, t'es pas du sérail. Mais en même temps, quand t'es au conservatoire, si tu viens pas d'une famille éduquée intellectuelle, t'es pas du sérail non plus, quoi. C'est toujours cette fameuse histoire de case.
C'est ça.
Après, ouais, si, j'ai appris des choses. Bah, ça m'a appris, ça m'a conforté dans les goûts que j'avais déjà. Ça m'a conforté dans ce que je recherchais. Donc finalement, ça m'a balisé le terrain. Ça m'a forgé l'esprit. Sur des choses humaines aussi, ça m'a fait grandir. Et si, il y a quand même des artistes, et du coup, comme j'étais reporter, j'ai fait des reportages avec des artistes que j'ai vraiment kiffé, que pour le coup, je continuerai de suivre. Je me suis un peu ouverte l'esprit. C'est-à-dire, je dis, je hais le hip-hop, mais c'est pas vrai parce qu'il y a des gens comme Giorgio, par exemple, qui est un rappeur que j'ai découvert, qui est un petit minet qui fait vraiment du rap actuel, mais n'empêche que quand je l'ai rencontré, il m'a cité Léopold Sédar Senghor je sais plus quel autre poète africain. Enfin, le mec a une culture littéraire absolument dingue et j'ai fait OK, je vais aller écouter tes textes et j'ai adoré ce qu'il fait, quoi. Comme quoi, il fallait se mettre dedans pour découvrir d'autres choses. Et je pense que mine de crayon, ça m'influence peut-être un petit peu aujourd'hui dans mon travail. En tout cas, avec les jeunes au collège, ça m'aide vachement. Parce que quand ils googlent mon nom et qu'ils voient des photos de moi avec des rappeurs, ils sont là, Madame, vous êtes une star. Donc ça m'aide vachement à gagner leur respect.
C'est clair.
Bien ça.
Et d'ailleurs, dans tes postes, est-ce que tu as toujours ressenti cette légitimité? Parce que c'est vrai qu'en ayant changé plusieurs fois, en ayant appris de toi-même, est-ce que tu as déjà tu t'es toujours senti légitime, toi, dans ton activité?
mais jamais.
Ouais, bon, la question, elle était pour le bonus. Hein. Je connais la réponse.
Non, mais je suis sortie de l'école de radio quand même, major de ma promo, avec le prix spécial du jury. Donc, genre, number one, tu vois, tu peux pas faire mieux. Mais je me suis dit, mais jamais je trouverai de boulot, je suis pas du tout à la hauteur. Et j'étais dans un flip monstrueux et je me trouvais nulle et tout. Et finalement, ça s'est bien passé. Je suis contente du parcours que j'ai eu en radio. Mais j'ai un syndrome de l'imposteur qui est terrible, terrible. Même en musique, hein, je suis diplômée de conservatoire. J'ai quand même l'impression que je ne sais pas faire de musique des fois. Genre, je prends mon violon, mon piano, je suis là, oh là là, je ne sais rien faire, c'est une catastrophe. Alors qu'en fait, je retourne les accords et tout, ça va. Mon mec, il fait, bon, c'est bon, tu sais jouer. Je fais, ouais, non, mais non, en fait, ce n'est pas assez bien. Il y a ce truc aussi de perfectionnisme permanent qui est un peu relou et qui, je pense, contribue à me créer ce syndrome de l'imposteur. C'est jamais assez bien.
Et puis ça, c'est sûr que le syndrome de l'imposteur, c'est un peu une des malédictions. Bon, on retrouve dans beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à gérer. Est-ce que tu as trouvé, toi, des petites choses pour, au quotidien, le détourner, réussir un peu à le mater, à le calmer? La question
en
qui fait, dérange.
Ouais, c'est ça. Pas trop, je pense. En fait, il y a un truc qui me calme un peu. Enfin, il y a deux trucs qui me calment. Le truc d'essayer, je fais. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et au fur et à mesure, je progresse. Donc, ça me conforte. Et en fait, ça me saoule à mort. Mais c'est mon mec, en fait, mon atout minceur, mon atout bien-être sur ce côté-là. En fait, c'est genre, j'ai un flip, ça le saoule, je vais le voir en lui disant j'y arriverai pas, et il est là, t'es relou. Et mais finalement, c'est lui qui, avec ce qu'il va me dire, que je vais faire, ok, vas-y, je peux le faire, ok, c'est bon, j'ai confiance, on y va. Alors j'y vais en mode, t'es sûr, hein, t'es sûr, je vais y arriver, là t'en penses quoi, c'est comment, ok, et là je fais quoi, et là tu quoi. Donc je suis relou à mort, mais relou. Et mais c'est ça, en fait, c'est lui qui me permet d'avancer, c'est son regard, même s'il râle, il m'encourage, en fait, et c'est ça.
C'est marrant ce que tu me dis, ça me fait penser à une citation, tu me dis si tu reconnais. Quand il se challenge, la meilleure clé pour un être humain, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui croit fermement qu'il va réussir. Parce que chacun peut réussir, et quel sentiment génial de ressentir cela pour son prochain.
Ah mais complètement. Puis de toute façon, c'est la force du collectif. Moi, j'y crois à fond. Je crois que t'as aucun projet qui marche dans la vie si t'es pas en collectif. Ça sert à rien. Puis de toute façon, ça sert à rien d'être tout seul sur Terre, en fait. On vit pour être en compte. En fait, en plus, j'ai une grosse théorie sur la vie après la mort. Donc, pour moi, la raison d'être sur cette Terre, c'est d'être avec les autres. Pour moi, on ne sert qu'à ça. On sert à apprendre à être avec les autres et à se nourrir des autres. Il n'y a rien d'autre, en fait. Pour moi, c'est pour ça qu'on est créé. C'est très philosophique, là. Je pars très loin et je ne suis pas encore sous drogue. Je ne sais plus la question.
Non, est-ce que tu as reconnu cette citation ou pas?
Non, je ne sais pas de
non
qui c'est.
Ouais, bon, mais c'est de toi.
Sérieux?
C'est de toi, lors d'une interview de TEDx.
C'est moi qui ai dit ça.
Ouais, c'est toi qui ai dit okay. Ça. Moi, j'ai trouvé ça très beau et c'est marrant parce que tu nous l'as en fait répété avec tes mots.
Et comme quoi, je suis cohérente.
C'est cohérent.
On voulait tester.
Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas reconnu. C'était pour le TEDx de cette année ou de l'année dernière?
Cette année.
Cette année, j'ai dit ça. Ouais. En plus, c'est moi qui l'ai écrit, donc vraiment, je m'en souviens. Je me souviens très bien. J'étais à mon bureau. Ok. Ça me perturbe un peu que tu m'aies piégé comme ça. mais ouais, enfin, je suis complètement d'accord avec ça, quoi. C'est comme tu dis, c'est ce que je viens de redire, quoi. C'est pour moi, c'est le collectif, quoi. C'est collectif égale vie, quoi. C'est la traduction latine.
Oui, c'est vrai. Une petite question toujours sur le syndrome de l'imposteur. Une des choses qui s'ensuit souvent, c'est aussi le rapport à l'argent, la difficulté qu'on peut avoir.
Ouais, bah, alors ça.
Non, mais j'ai même pas besoin de terminer ma question parce que je sais qu'on va dans des points que trac.
Non, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que quand j'étais en pleine tambouille interne de mon cerveau, et puis d'ailleurs, je continue toujours de me faire suivre par une conseillère à l'APEC, qui est l'organisme pour les cadres, qui est en fait le pôle emploi, mais en bien. C'est-à-dire avec des gens qui savent de quoi tu parles et qui disent « Comment ça, radio? Vous voulez être manip radio? Je comprends pas. » Donc, des gens qui connaissent les métiers et qui ont des offres à te proposer et qui te forment pour... Donc, vraiment un truc bien. Enfin, vraiment, j'adore. Et j'ai une conseillère qui est géniale, qui m'a fait passer des tests... sur mes encres motivationnelles, mes valeurs dans la vie. Et elle m'a dit, écoutez, Madame Baruch, c'est une catastrophe. Côté argent, vous avez 0%. Elle dit, vous n'avez aucun intérêt pour l'argent. Vous n'accrochez pas du tout. Elle me dit, mais il va falloir, parce que comment vous faites dans la vie pour payer vos charges ou pour vendre des choses? Elle me dit, il faut vous y intéresser. Et c'est une catastrophe, je n'y arrive pas. L'argent, c'est, je suis un panier percé. Je m'en fous, en fait. Je m'en contrefous. Je suis contente d'en avoir, mais il va servir en fait à faire plaisir aux gens les trois quarts du temps. C'est pour moi, c'est vraiment pas important, en fait. En fait, j'ai envie de faire ce que j'aime. J'ai pas envie de le faire pour gagner de l'argent.
Je sais pas à quoi rajouter de plus parce que c'est exactement ce que je pense, donc je sais pas. En fait, ouais, c'est vrai que pour moi, l'argent, ça sert à créer des projets avec les autres, quoi, à monter des projets.
Et plus t'en as, plus tu développes des beaux projets. Et c'est ça qui est cool. Mais voilà. C'est pas pour le garder, l'emporter dans ta tombe, quoi.
C'est pas pour autant qu'on connaît pas la valeur de l'argent et du travail, mais c'est, voilà, l'importance, je pense qu'il faut replacer. C'est pas une finalité, c'est jamais une finalité.
C'est ça.
Gagner de l'argent.
C'est ça. C'est pas une finalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais pas me sous-vendre au SMIC pour mon travail. Je vais monter les tarifs, mais parce que au prorata du temps que j'y passe et de l'investissement personnel que j'y mets aussi, quoi. Et l'argent que je vais récolter, il va servir à être réinvesti dans autre chose. Il dort pas sur un compte. J'en mets un petit peu de côté parce que j'ai un grand projet de vie et qu'un jour j'aurai besoin d'argent pour le faire. Mais sinon. Enfin, je pense que jusqu'à mes 27-28 ans, quand j'avais plus de 200 euros sur mon compte à la fin du mois, c'était un miracle, quoi. J'ai un banquier qui est génial, en plus, il est super sympa. À chaque fois qu'il voit que ça descend, il m'appelle en mode « Bon, j'augmente le découvert. » »« Ouais, merci, c'est trop cool, j'aurais pas de crème. » C'est une crème, il est à l'autre bout de la France, mais je le kiffe. Pierre-Yves, si tu m'entends. Je me mets pas trop dans le caca emoji, mais... l'emoji caca plutôt, mais non, c'est vraiment pas mon objectif de vie, et puis c'est pas la finalité, quoi. C'est pour réinvestir, c'est sûr.
Bon, je n'ai rien à rajouter sur ce sujet-là. Tu as vraiment tout dit, tu as tout bien résumé. Toi, en tant que multipotentiel, est-ce que tu as déjà... quel meilleur conseil que tu as reçu?
Je pense que c'est juste assume, en fait. J'ai pas de réponse toute préparée, je viens juste de le dire en mode, je viens d'y réfléchir, j'ai fait un scan rapide de mes souvenirs et je crois que c'est juste ça, parce qu'il y a, enfin je vais être peut-être un peu défaitiste, mais il n'y a pas de solution miracle, en fait. Je crois que c'est juste être adulte, c'est genre c'est là, t'as deux choix, soit tu fais pas avec et ta vie va être galère, soit tu fais avec et tu pourras faire des trucs cool, quoi. Mais c'est comme affronter le deuil d'un parent quand on est enfant, c'est comme divorcer à 60 ans. Ça peut être un truc dur de la vie, mais en fait, juste, t'as pas le choix, quoi. Assume, en fait.
Mais c'est vrai qu'on arrive dans tout ce qui est justement l'acceptation. Assumer, c'est accepter aussi, c'est s'accepter pleinement. Et ce que je pense qu'on est tous en train de se rendre compte, en tant que multipotentiel qui commence à vivre vraiment leur vie de multipotentiel en l'assumant, c'est qu'on devient vraiment nous-mêmes. Et à partir du moment où on devient vraiment nous-mêmes, il y a quelque chose qui se libère, on a plus de facilité à l'expliquer, on a plus de facilité à s'exprimer, à assumer aussi cette part émotionnelle, nos valeurs qui sont quand même très importantes et qui... Je pense qu'à un certain moment, on arrive à se conformer dans une entreprise jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Et là, on est arrivé à tolérer certaines choses. Ça devient épidermique. Et d'où le bore-out ou le burn-out qui peuvent s'en suivre, qui sont souvent des burns qui sont émotionnels. On n'est pas trop dans la charge de travail, mais plus dans l'émotionnel de ce côté-là. Donc je pense que ce côté de s'assumer, c'est aussi s'accepter pleinement et être en équilibre avec soi-même.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, tu as dit un truc que ça m'a fait tilter. Je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais plus comment tu l'as dit exactement, mais c'est un peu dans l'idée de en ce moment où on en est. Et je me pose aussi beaucoup la question de est-ce que c'est l'époque qui permet de s'en rendre compte ou est-ce que c'est nous, dans nos parcours personnels, qui sommes finalement assez synchrones? J'arrive pas trop à savoir parce que je vois que les choses se développent et elles se développent bizarrement au moment où je me développe là-dessus aussi. Ça m'interpelle vachement et je me dis, est-ce que c'est parce que je suis en train de le faire que je commence à le voir, ou est-ce que je suis très synchro avec le reste du monde, ou est-ce qu'il y a une acceptation collective qui serait pas en train de se faire, qui aiderait les choses, en fait? Et j'ai un peu envie de croire ça. J'ai un peu envie de croire qu'il y a une acceptation collective qui est en train de se développer. La preuve, il y a des médias qui se lancent, il y a quelques articles qui commencent à être écrits, vous faites un podcast. je crois qu'il... Enfin, en fait, j'ai bon espoir que la situation évolue pour tous les multipotentiels du monde.
Pleurons ensemble.
Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai envie de croire qu'il y a un truc qui se passe, ouais.
Il y a effectivement quelque chose qui se passe, c'est vrai. Après, c'est toujours le syndrome de la femme enceinte. Quand on en, une femme qui est enceinte, on en voit partout. Maintenant, c'est vrai que... Moi, j'ai fait de la psycho aussi. On nous avait appris ça en disant, voilà, vous allez voir, vous allez faire un truc, tac. Vous allez toujours le voir partout. Il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment, mais sur plein de points, que ce soit sur l'écologie. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit, en tout cas, sur plein de choses. Et on est dans une société qui a plus envie de prendre soin d'elle. Et de vraiment, les gens ont plus envie d'apprendre à comprendre qui ils sont. On sort d'une génération de personnes qui ont travaillé en entreprise parce qu'il fallait, parce qu'on sortait de la guerre, il fallait reconstruire le pays, donc on a été habitué, il fallait y aller. De toute façon, on n'avait pas trop de questions à se poser.
Il fallait.
Voilà. Et nous, on est dans une génération, par contre, où on a commencé comme ça à fond les ballons, parce qu'on nous a appris. Ouais. Et là, maintenant, on se rend compte en disant, mais en fait, non. En fait, moi, je ne suis pas d'accord et j'aime bien faire d'autres choses et j'ai peut-être envie de prendre du temps pour apprendre à me connaître, à savoir qui je suis et le faire peut-être avec plus de conscience aussi au niveau planétaire parce qu'on se rend compte que, bon, au niveau écologique, on est un petit peu, comme on disait tout à l'heure en rigolant, que le réchauffement climatique n'existe pas. Ça fait partie des choses qu'on entend maintenant et qui, pour certains de nous, ça nous fait quand même un peu saigner les oreilles et se dire, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui on nous dise ça. Le débat de la Terre est plate, on n'en parle pas non plus, quoi. Il y a des choses qui sont un petit peu... Voilà, il y a quand même beaucoup de consciences qui sont en train de se mettre en place. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose. Je te rejoins en tout cas sur ce discours d'une espèce d'éveil de conscience.
Il y a une anthropologue que j'ai rencontrée dans le cadre de TEDx Champs-Élysées qui s'appelle Fanny Paris et qui bosse sur un mouvement en fait qui rejoint totalement ça, que je trouve très vrai, qui s'appelle les créatifs culturels. Et c'est ce fabuleux mouvement des gens qui ont des activités artistiques, qui ont un éveil des consciences, qui sont intéressés par les problématiques collectives, par les problématiques écologiques et qui veulent trouver du sens en fait, trouver du sens envers eux et envers le collectif. Et elle étudie ça, c'est sa thématique, et je trouve ça passionnant. Il n'y a pas encore beaucoup d'écrits là-dessus, mais c'est vraiment passionnant parce que c'est scientifiquement prouvé, du coup, alors pas la multipotentialité et la zébritude, mais en tout cas, la créativité culturelle est un mouvement qui est scientifiquement prouvé de façon anthropologique, qu'il se passe quelque chose, et anthropologique et sociologique, dans la tête des gens. Et ça va même plus loin, parce que je lisais un article dans Le Parisien l'autre jour qui s'appelait « Génération, j'ai le droit », parce que je ne sais plus qui sort un bouquin qui s'appelle comme ça, et qui parle de cette fameuse génération encore d'après, là, qui est au collège d'ailleurs en ce moment, qui est la génération « j'ai le droit ». C'est-à-dire qu'ils ne se posent même plus la question de qu'est-ce qu'ils sont, de qui ils sont et de ce qu'ils veulent. C'est de base « j'ai le droit parce que j'existe ». Et on voit vraiment cette chronologie de nos ancêtres qui, il faut que je fasse comme ça. Nous, de il faut, mais quand même, j'ai quand même un petit peu envie de me trouver. Derrière, de toute façon, c'est je fais ce que je veux, je vous emmerde.
Nous, on est un peu la génération au milieu qui est genre, j'aimerais bien, mais je sais pas si je peux. Alors, ceux derrière, ils sont totalement libres.
C'est ça, très libres. Ils sont libres d'une force, mais presque trop, des fois. Parce qu'en classe, je vois, c'est. Je me dis, ils vont quand même avoir besoin d'un petit peu de cadre, parce que sinon, ils s'en sortiront pas, quoi. Mais c'est exactement ça. Ils ont une liberté qui est un peu flippante. Moi, elle m'impressionne un peu des fois.
Mais je suis d'accord. J'ai une amie là, qui vient de reprendre ses études, donc elle a 36 ans, et elle vient de reprendre ses études dans le graphisme, donc tout ce qui est l'expérience utilisateur dans le design. Et elle est avec des jeunes de 20 ans qui commencent à peine, et elle me dit à certains moments, mais tu te rends pas compte qu'il y en a certains, ils ont des discours qui sont mille fois plus mûrs que ce que moi j'ai pu avoir, ils sont beaucoup plus libres, ils se posent pas de questions. Et c'est rigolo parce que justement, on se retrouve dans ce moment de choc de génération où en fait on les regarde en disant, mais à la fois j'ai envie de te foutre une claque parce que c'est très impertinent ce que tu viens de faire, mais à la fois je t'admire très fortement parce que tu as tellement raison que je ne sais pas ce que je vais faire.
Exactement. Et les pauvres, parce que si on se met aussi de leur côté, eux, ils sont confrontés à deux générations qui ont envie de les baffer. C'est clair. Ils sont on a complètement raison, les gars. En plus, vous nous le dites. Enfin, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et eux aussi, ils sont perturbés en mode, mais du coup, donnez-nous des limites, donnez-nous des cadres, on va vous tester. Ok, vous ne savez pas vous-même parce que vous ne vous trouvez pas. Donc, en gros, tout le monde est paumé, quoi. On fait quoi, les gars, finalement, quoi. J'ai hâte, en fait, de voir ce que ça va donner dans quelques années. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être hyper intéressant ce qui peut se passer. On est vraiment à un tournant de la vie.
Et toi, tu parlais de ta maman, justement, qui avait sans doute décelé ça assez tôt chez toi, mais le reste de tes proches, ta famille, maintenant ton conjoint, comment ils prennent ça?
Bah, ma famille. Bah, en fait, tout le monde n'est pas au courant dans ma famille. Drôle, je vais mettre le podcast sur Facebook, on va voir qui réagit. Genre, mon père, ma mère sont au courant. Mais globalement, mes tontes, mes oncles, mes cousins, ce n'est pas un sujet que j'ai abordé, en fait. Ma mère, mon père, c'est ouais, bah, cool, ok, très bien. Avec ma mère qui est un peu en mode, mais de toute façon, t'es trop géniale, ma fille. Je suis l'admiration de ma mère. C'est flippant, des fois. Mais bisous, maman, je t'aime. Mon conjoint, ça le déroute quand même parfois. C'est-à-dire qu'il m'aime, il fait avec qui je suis comme je suis, mais des fois quand même, il comprend pas et il a envie de comprendre. Et il se retrouve face à un peu un truc de ce qu'on disait tout à l'heure, il essaye de sortir de son carcan, de ce qu'il croit être, et il est déjà beaucoup sorti, mais des fois, c'est un peu de « mais ça va encore plus loin que ce dont je suis sortie, comment je fais pour comprendre exactement qui t'es ?» Puis des fois, comme même moi, je change d'avis en cours de route, je l'aide pas. Mais en tout cas, il essaye. Il n'arrive pas tout le temps, mais il essaye très fort, en fait. Et ça, c'est cool. Et parmi mes amis, il y en a qui s'en foutent royalement, qui ont fait « mais de toute façon, on t'aime voilà, comme ça. » Il y en a qui ont fait « ah, je le savais !» D'accord. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, il y a un tri qui se fait aussi. Je pense que les personnes qui n'aimaient pas trop, mais qui n'ont pas voulu me le dire, s'éloignent naturellement.
Ah ouais, non, je te laisse les transitions difficiles.
D'accord,
hein,
tu me laisses les transitions difficiles. Je vois ça.
Non,
et moi, je vous les laisse comme ça. Hein, en mode
bon, non, mais c'est très bien.
Non, c'est super intéressant. On se reconnaît vraiment dans ce que tu nous dis, c'est vrai. Et c'est important quand même d'avoir le soutien de sa famille, de son proche, et enfin, de son couple. D'avoir au moins cette volonté de comprendre, cette volonté d'aller, de se mettre à la place et de pas juger tout de suite, de porter un jugement sur. Ok, il va encore abandonner un projet, elle va encore abandonner un projet.
Ah si, il le fait.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est il y a quand même cette bienveillance au final.
Au final, oui.
Voilà.
Ouais. C'est ça.
Cette
ouais.
confiance est importante quand on est né comme ça, parce au bout d'un moment, quand même, on finit par trouver sa voie, on finit par lier toutes nos envies, les activités qu'on a envie de faire, et peut-être de trouver un point commun et d'avoir justement une activité qui rejoint tout ça. Et ça me permet de faire une magnifique transition avec ton projet actuel. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Bah ouais, le regroupement de moi-même dans mon exponentialité. Le projet, c'est de monter un studio de création transdisciplinaire. Donc, un endroit où je pourrais créer des supports de transmission de culture, mais variés. C'est-à-dire que je viens du son, de l'univers de la musique et de la radio, donc c'est un support que je maîtrise. J'ai appris à faire l'image aussi, parce que quand on monte du son, c'est quasiment comme monter des images. Après, il y a des petits paramètres sur le mixage, sur l'étalonnage qui sont un peu différents, et le cadrage évidemment, mais du coup, j'ai pu apprendre ça un peu en autodidacte. Et là, je commence à me former aux arts appliqués, au design et au graphisme, pour finalement réussir à faire des packaging de communication, avec l'avantage que du coup, mes clients auront un interlocuteur unique et une direction artistique unique où je m'y connaisse dans chacun des supports de création pour pouvoir les aiguiller, les conforter et les conseiller et créer du coup ces supports de communication plutôt culturels que je veux. Et comme on disait en intro, donc la transdisciplinarité, j'aimerais bien la pousser jusqu'à l'éveil des cinq sens, c'est-à-dire faire des choses aussi avec les textures, avec le toucher, avec les odeurs, donc les bruits, la vue, les odeurs, le toucher. Peut-être qu'un jour, on inventera quelque chose aussi sur la mentalisation, je ne sais pas. J'y crois un peu. Enfin, j'y crois par rapport à ma théorie de la vie après la mort. Je pense qu'on saura faire des choses avec mon cerveau dans la prochaine vie. Encore plus que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et je pense que les multipotentiels, on va déchirer parce qu'on a appris plein de trucs maintenant. et donc, voilà, créer des choses un peu tout feu, tout flamme, tout azimut en création. Faire de la créa, en fait. Direction artistique créa de la culture. Voilà.
C'est top, parce que c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui va te permettre de lier tous tes apprentissages.
Bah, tout ce que j'ai fait dans ma vie, finalement, le sens derrière le « vous me payez pour que je raconte votre histoire, mais vous choisissez sur quelle forme on la raconte, et moi, je vais faire de la magie avec.
Ah, » C'est cool.
Ça ouais. Du rêve. Ouais, c'est comme ça. Après, il faut voir le résultat, mais hashtag syndrome de l'imposteur. mais ouais, si, ça me fait super triper, quoi. J'adore être là-dedans, quoi. C'est trop bien. J'ai les doigts dedans, là. C'est un kiff. J'adore.
Et du coup, on voulait voir avec toi aussi, parce que dans ce genre de vie qu'on peut avoir qui part dans tous les sens, est-ce qu'il y a des petits rituels que tu pratiques au quotidien ou qui sont des choses qui te rattachent justement, qui te permettent des fois de calmer cet esprit très très créatif et qui permettent aussi voilà, de t'ancrer dans une journée, dans un bon départ de journée?
Alors en fait, j'adore que mes journées ne se ressemblent pas. Et je fais tout pour que mes journées ne se ressemblent pas. Donc, je n'ai pas tant de rituels. En fait, disons qu'il y a des choses que je vais faire régulièrement à des échéances. Genre, j'ai un peu besoin de soi, je vais faire un peu de ça. J'ai un peu besoin de ça, je vais faire un peu de ça. Et donc, j'ai des tips, on va dire, de choses qui me font du bien. Mais ce n'est pas ritualisé, en fait. C'est un peu à la carte. Genre, ah, là, j'ai besoin de ça, je sais, je vais le chercher dans mon tiroir où il est rangé, en fait, quoi.
Alors, en fait, c'est un peu le
C'est une
principe
liste, en fait.
du rituel versus la routine. Parce que la routine, c'est quelque chose qu'on va mettre en place tous les jours et tout. Et c'est vrai que j'allais te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à chaque fois qu'on leur pose cette question? Il n'y a personne qui veut avoir de rituel et tout. Et après, je me dis, mais en fait, c'est vrai, parce que moi, je suis la première à pas en avoir. J'essaye de me mettre des routines. Et en fait, je me rends compte que je mets en place des rituels. Par jour, je vais avoir une horaire dans laquelle je vais faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien la différence entre la routine de quelque chose qui va être répétitif, alors que le rituel, c'est j'ai plein de rituels et je choisis celui qui me convient le jour, l'heure à laquelle j'ai besoin.
Bah, faire la sieste. C'est nul, mais ça me fait vachement bien en fait.
C'est génial la sieste.
Faire la sieste, 1 heure, l'après-midi, le canap', devant un film. J'adore m'endormir devant un film, genre une bouse que je vais pas regarder, mais juste pour avoir un truc qui me berce. Et ça me repose vachement en fait. Ça, c'est une recharge en carburant qui est vraiment essentielle. Mais de toute manière, le sommeil chez moi, c'est vraiment essentiel. J'ai besoin de 8 heures par nuit. Je suis acariâtre si je suis en manque de sommeil. Mais vraiment, je suis vraiment désagréable si je n'ai pas assez dormi. En plus, je fais plein de conneries, je lâche les objets. J'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Parce que je pense que je suis très énergivore aussi. Du coup, j'ai besoin du sommeil qui va avec. Donc, un bon 8 heures. J'ai des petits rituels de bouffe aussi, mais ça, ce n'est pas forcément bien. C'est peut-être un petit peu pas bien, mais la bouffe, c'est un peu mon doudou. Donc, sur les coups de blues, en fait, j'ai mis un truc en place, c'est con, hein, mais quand j'étais à la fac avec mes meilleures copines, qui sont toujours mes meilleures copines, quand ça allait pas ou quand on s'ennuyait, on allait manger un McFlurry M&M's. Et du coup, dès que ça va pas, je vais acheter un McFlurry M&M's. C'est horrible, c'est pas du tout bon pour la ligne, mais ça, c'est mon truc qui me fait grave du bien, quoi, vraiment. Et puis sinon, si l'autre truc qui me détend vraiment vachement aussi, c'est je vais au ciné. Je vais vachement souvent au ciné. Je regarde plein plein de films, j'adore ça. Et une époque, je faisais mes pauses déj au ciné. C'est-à-dire, je me faisais un Tupperware froid, une salade ou un sandwich, et j'allais sur l'heure de midi regarder un film pour être dans le noir, pour avoir un grand écran et de la bonne qualité d'image et de son, et me laisser emporter par une histoire. Ça me faisait vachement de bien. Enfin, ça me fait toujours du bien.
Et par rapport à ça, justement, ça me fait rebondir sur ces périodes qu'on dit souvent que les multipotentiels ont ces périodes de grande productivité, intellectuelle aussi, parce qu'on est quand même des personnes qui sont beaucoup dans la créativité intellectuelle, autant que physique. Et souvent, ça fait je crée, je crée, je crée, je
Après,
m'effondre.
je me pose. Ah ouais, complètement. C'est complètement ça. Je vais être à donf, mais genre, je peux le faire de 5h à minuit pendant un mois. Et après, par contre, oh là là, laissez-moi tranquille. Je veux aller au ciné, je veux faire du shopping et je veux faire la sieste, quoi. Ouais, complètement. Mais j'ai besoin de ça et j'apprécie ça, en fait, aussi. C'est pour ça que je me rappelle quand j'en discutais avec ma fameuse conseillère APEC, je lui disais, je veux pouvoir avoir le loisir de balader ma truffe quand bon me semble, en fait. C'est-à-dire, je rendrai toujours le travail qu'il faut en temps et en heure, et je promets qu'il sera toujours de qualité, mais laissez-moi aller à mon biorhythme, en fait. Genre, si je décide que je... C'est un peu égoïste, hein, c'est peut-être même... Parfois, ça peut être perçu de façon futile, mais si je décide que je ne viens qu'à 11h parce que j'ai besoin de dormir 9h, ben, je viendrai qu'à 11h. Mais rassurez-vous, peut-être que je resterai jusqu'à 1h du matin, mais votre projet, il sera rendu dans temps et en heure, en fait, quoi. C'est vraiment comme ça que je fonctionne et j'aimerais bien pouvoir fonctionner complètement à l'avenir.
Mais c'est intéressant parce que tu as utilisé le terme biorhythme.
Ouais.
Et en fait, c'est ça, c'est se respecter aussi. C'est effectivement, on a cette capacité intellectuelle de produire très fortement, d'être beaucoup dans la visualisation, même le son, d'avoir des idées qui fusent à 20 000 à l'heure. Et c'est aussi,
L'anticipation.
voilà, puis c'est aussi le principe de pouvoir respecter son rythme de travail, son rythme de création et de pouvoir s'adapter à côté. Parce que finalement, actuellement, on n'a fait que s'adapter à la
Aux
société,
autres.
aux autres et aux entreprises. Et là, d'un coup, c'est s'adapter à nous-mêmes. D'un coup, de dire, bah, attends, moi j'ai ça, je sais que c'est. Et ça, je pense, c'est important aussi d'en parler, simplement parce que c'est des choses qu'on a rencontrées. Et pour certaines personnes, c'est très difficile de se dire, mais attends, je me sens, j'ai fait plein de choses moi aussi, et là, je suis épuisée, j'arrive pas à avancer. Et moi, j'ai des amis qui sont multipotentiels, par exemple, qui en souffrent énormément. Ils n'arrêtent pas de me dire. Alors, c'est pas tant du syndrome de l'imposteur, mais par contre, là, c'est plus de l'ordre du jugement personnel. Genre, mais je devrais faire plus, pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, mais... Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des témoignages de ce côté-là qui puissent être positifs, de dire, non, mais en fait, c'est pas grave.
Ah, mais en fait, je l'ai aussi, hein. C'est-à-dire que je suis sur mon canapé, je mate un film en mode, oh là là, je me sens partir, je vais m'endormir. Il y a mon petit diable là sur l'épaule gauche qui va venir et qui fait « Florence, tu pourrais être en train d'avancer ta prochaine vidéo, c'est pas bien !» Mais en fait, j'apprends à lui dire, à m'en débarrasser, à lui dire « Ouais, mais ma prochaine vidéo, elle sera mieux si je suis à fond dedans et que j'ai... » En fait, ce moment presque que j'ai envie d'appeler de grâce, c'est-à-dire que le moment où je suis dedans, où je le sens, ben, je vais être à fond et je vais faire un truc... pas au top, mais je vais y aller au top, par contre. Mais si je suis en mode « Oulala, là, j'ai besoin de recharger », bah, je vais, de toute façon, quoi que je produise, ça sera pas forcément, j'en serai pas fière et ça sera pas optimal. Donc j'apprends à dire à ce petit diable, arrête de me culpabiliser, parce qu'en fait, cette culpabilisation, elle vient encore de cette putain de culture française qui peut être très relou parfois, de présentéisme, de respecter les codes, de respecter le moule. Il faut être au travail entre 9h et 18h, même dans certains métiers, il faut rester jusqu'à 20h parce que sinon c'est mal vu. Enfin, en fait, c'est super chiant, quoi. Ça, c'est pas du tout adapté aux trois quarts des gens. Et j'en viens un peu au constat à me dire, est-ce que tous les multipotentiels ne doivent pas être entrepreneurs pour pouvoir être leur propre patron et pouvoir être bien dans leur vie? Mais ça me dérangerait pas d'être dans une entreprise parce que je rêve d'un patron, donc à condition que j'ai un patron qui me dise, OK, va à ton rythme. Rends les projets en temps et en heure, mais je te fais confiance, va à ton rythme. Ça, pour moi, le patron un jour qui me dit ça, d'ailleurs, je lance un appel, si quelqu'un entend ça et que c'est un patron qui est prêt à faire ça et qui cherche une créa, mais embauche-moi, tu seras pas déçu, quoi. C'est le patron qui aura l'intelligence de comprendre ça sans avoir peur du résultat, mais en toute connaissance et en toute appréciation du potentiel, des multipotentiels. Mais je pense qu'il aura touché le gros lot, parce que s'il sait s'entourer de personnes comme ça, son entreprise, elle peut être foisonnante de façon exponentielle, quoi. Mais bon, d'accord, du chemin.
Ouais. Oui, il y a du chemin, mais il est en train de se faire peu à peu en ce moment.
Ouais, ça serait bien, ça serait très bien. Enfin, c'est bien. Parce que quand même, si je vois des choses, je vois des choses qui s'améliorent. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même passer par la case entrepreneuriat un moment pour...
C'est ce que tu dis là est intéressant. Est-ce qu'il faut passer par la case de l'entrepreneuriat? Je ne sais pas. Après, on a notre petite opinion sur ça, je pense. On en a parlé, mais il y a quand même différents profils de multipotentiels et de slasher. Il y en a qui préfèrent avoir un métier alimentaire ou un métier qui les intéresse plutôt bien et qui ont tout leur hobby à côté et ça les suffit, toute leur passion à côté. Il y en a qui vont faire un métier à fond et changer de métier au bout de quelques années pour faire quelque chose de complètement différent. Ça les empêche pas de travailler pour un patron. Je pense que voilà, il n'y a pas forcément un seul modèle. C'est vrai que nous, on se reconnaît peut-être un peu plus dans l'entrepreneuriat. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur ça. Mais ouais, je pense qu'il y a plusieurs profils. Il y a plusieurs solutions, surtout pour arriver à vivre une vie épanouie de multipotentiels, de personnes qui ont envie de faire tout ça en même temps. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est très important à ce moment-là, si tu as un métier dans une entreprise, d'avoir un patron, d'avoir un manager qui comprend ça, qui arrive à, voilà, déjà d'avoir une bonne visibilité sur ton travail, sur la qualité de ton travail, sur l'importance que tu as d'avoir tes propres horaires, ton propre rythme.
Oui.
Mais de voir surtout que le résultat est là, de voir que tu as d'autres compétences, d'autres compétences relationnelles ou compétences que les autres n'ont pas forcément. Et il faut de tout, quoi. Je pense que des spécialistes, des multipotentiels, dans une équipe, ça fait une équipe géniale, quoi, tout simplement.
Ah, mais je suis complètement d'accord avec cette idée. Pour moi, elle est presque utopique, en fait. Ça serait trop bien. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les plusieurs solutions de vie pour des multipotentiels, pourquoi je prends aussi un peu le parti de l'entrepreneuriat? Parce que je suis complètement d'accord avec l'idée qu'on peut enchaîner plusieurs métiers, être à fond, ou trouver des solutions. Mais je trouve quand même que ça demande une adaptabilité très importante et permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Si tu le fais, tu t'adaptes à la société, tu t'adaptes aux autres. Et des fois, c'est un peu fatigant, en fait, je trouve. C'est pour ça que, comme tu dis, ce modèle utopique avec spécialistes et multipotentiels, ça serait tellement génial pour tout le monde. En fait, tout le monde aurait y gagné, et les multipotentiels et les entreprises. Et il n'y aurait pas besoin de s'adapter les uns aux autres. On serait juste en cohabitation harmonieuse. Ça serait tellement cool.
C'est sûr, et les spécialistes aussi, parce que de plus en plus, maintenant, on est en train de demander à des spécialistes de devenir des généralistes, chose que nous sommes assez naturellement. Et en fait, ils sont totalement perdus parce que ça ne leur correspond absolument pas comme rythme, comme chose. Et ils ont fait des études pour quelque chose, parce que ça leur plaisait, c'est leur passion, et c'est comme ça qu'ils ont envie de travailler. Pourquoi est-ce que d'un coup, on me demande d'aller m'intéresser à d'autres choses? En plus, ils ont peut-être pas envie, parce que du coup, c'est cette envie de cet intérêt, on va dire, de curiosité, ils ne l'ont pas, d'aller faire des liens là où ils n'en voient peut-être pas, parce que c'est
plus,
pas
oui.
leur truc. Donc c'est sûr que d'un point de vue société actuelle, c'est la solution utopique. Je ne sais pas si elle l'est, parce que je pense que bon, ils en parlent c'est en train de sortir de plus en plus, et on en parle de plus en plus. Mais ce serait effectivement
idéal.
Un bon compromis entre multipotentiel et spécialiste. Ça, c'est indéniable.
Je serais très curieuse d'avoir le droit d'aller dans une entreprise où ça se passe comme ça, mais juste pour regarder comme une petite souris. Enfin, ça doit être passionnant d'observer les relations humaines, d'observer comment le travail se construit. J'adorerais avoir connaissance d'une entreprise qui a décidé de prendre ce modèle-là et de pouvoir aller les observer, les rencontrer. Je kifferais ça.
Ouais. On parlait avec un ancien collègue, justement, du fait que quand on est spécialiste, par exemple, on est développeur informatique, après, en voulant bien faire, on nous donne une promotion et à ce moment-là, on est chef de projet, mais on n'a pas forcément l'envie et les compétences pour faire de la gestion de projet si on est très bon développeur. Et ça rejoint exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on demande à un spécialiste de faire une tâche de la gestion de personnel, de la gestion de projet, c'est vrai que, en fait, les deux camps sont perdants parce qu'au final, l'entreprise perd un très bon spécialiste, un très bon développeur, par exemple. Et les employés qui sont gérés par quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire ça, ben ça les rend tristes aussi. Donc c'est vrai que si tout le monde pouvait avoir, comme tu disais, utopiquement, sa place dans la société, ça serait parfait. Mais je pense qu'on s'en rapproche. Je pense qu'il y a de plus en plus de méthodes possibles à mettre en place, de plus en plus d'aide et d'accompagnement à mettre en place pour pouvoir aider et les entreprises et les employés à vivre mieux et peut-être plus en harmonie.
Ouais, c'est marrant parce que je t'écoute parler et je me dis, bah, finalement, ça revient à ce truc de comment dire, j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon, j'ai regardé mon chat aller manger et du coup, je me suis perdue avec moi-même, parce qu'il est en train de me faire des câlins depuis 2 minutes. Ça va revenir, c'est pas grave, pardon, je suis désolée.
Il n'y a pas de souci.
J'ai bugué, c'est pas grave, tant pis, next.
On pourra couper.
Il n'y a pas de souci.
Mais je suis d'accord.
C'est vrai. Allez, on va. Je te propose de passer aux questions one shot, les questions rapides qu'on t'a envoyées en avance. Hein.
Ouais.
Pas mentir aux auditeurs. Y a-t-il un livre que tu offres régulièrement?
Exactement. Il y a un livre. Et d'ailleurs, c'est marrant. Je viens de me rendre compte à l'instant que c'est un livre qui me ressemble. C'est-à-dire qu'il ressemble à ma vie, mais je m'en étais jamais rendu compte. Ça vient de tilter à l'instant même. C'est un livre de Chip Kidd, en fait, qui s'appelle Cheese Monkey, qui est un livre qui n'est pas très beaucoup, c'est pas du tout français, qui n'est pas beaucoup sorti en France parce que c'est un éditeur indépendant qui l'a sorti. Et c'est l'histoire d'un gars qui va à l'université pour prendre des cours et il se retrouve à devoir prendre un cours de graphisme un peu à défaut et il va se confronter à un prof qui est complètement farfelu, qui est peut-être multipotentiel d'ailleurs, qui leur fait voir à lui et à ses camarades de classe la vie sous un angle complètement nouveau, qui les oblige à sortir de ce fameux carcan en fait, de confort, pour créer des choses, pour aboutir à des supports de communication graphique essentiellement, complètement novateurs et complètement parlants et très efficaces. Et ce bouquin, je l'adore. Pardon, j'ai un mail. Ce bouquin, je l'adore en fait parce que c'est le seul qui m'a fait cet effet dans la vie. C'est-à-dire que quand tu le lis, tu ressens ce que ressent le personnage principal en même temps que lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il est en colère, il est frustré de ce que lui demande son prof, mais tu te sens dans le même état, tu bouillonnes à l'intérieur. Il y a un moment, il est bourré, j'avais envie de vomir et je me suis précipitée au-dessus de mes toilettes parce que j'ai cru que ça allait sortir. Et quand il est heureux, bah, j'étais folle de joie en fait. C'est-à-dire que cet auteur a la capacité de te faire te mettre en empathie avec son personnage. Enfin, son écriture est foutue d'une manière qui est absolument dingue. Et pour moi, c'est le summum de l'écriture. Et puis en plus, ça parle de création et d'art. Donc, on est complètement dedans et c'est le et je l'offre assez régulièrement. Je fais des commandes, je vais faire des commandes groupées à un moment. Parce qu'il est, il est sublime. Pour moi, c'est le, c'est pas un livre genre c'est Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Nous sommes face à un chef-d'œuvre. C'est vraiment un livre qui pourrait être un petit peu populaire, mais qui est tellement intelligent parce qu'il arrive à engranger tout le monde sur un thème qui est pas forcément non plus le thème le plus abordable pour le commun des mortels. Et du coup, c'est vraiment une prouesse pour moi. C'est vraiment un livre prouesse et je l'aime d'amour.
Ça s'entend.
J'aime trop.
Alors, deuxième petite question qu'on a, c'est un achat récent de moins de 100 euros qui a eu un impact positif sur ta vie.
Alors ça, c'est hyper dur comme question. Parce que, en fait, comme je vous disais, je suis dans une période où tout a changé un peu. Et du coup, j'en ai profité pour faire des gros achats pour matérialiser ce changement de vie. C'est-à-dire, je viens de m'acheter un nouvel ordinateur qui est arrivé ce matin, pour ne pas vous mentir. Donc, et ça me rend profondément heureuse. Et c'est un achat qui, du coup, m'a rendue profondément heureuse. Et du coup, j'ai cherché qu'est-ce que j'avais acheté qui coûtait moins de 100 euros et qui m'avait fait profondément du bien. Et je suis retombée, en plus, sur ma table de chevet. Sur un livre, je m'en saisis, que j'ai acheté sur une errance un jour, c'est-à-dire que je sortais d'un rendez-vous. Ah, je sortais des Beaux-Arts, j'étais allée voir un ami qui était en exposition, et je me baladais à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Je suis allée dans la fameuse librairie qui juxte le Café de Flore en me disant « Ah, je ne suis jamais rentrée, ça fait 10 ans que je vis à Paris, je ne suis jamais rentrée là-dedans, alors que j'adore Saint-Germain-des-Prés, en mode snob. » Et je me suis dit « Ah, je vais rentrer, je vais voir à quoi elle ressemble, cette fameuse librairie dont tout le monde parle, ou c'est là où sont remis tous les grands prix de la littérature. Et j'ai acheté un livre. Je m'éparpille, mais bref, j'y arrive. J'ai acheté un livre qui s'appelle « Carnet créatif pour libérer votre imagination ». Et c'est un petit livre qui ressemble un peu à un livre pour enfants, mais chaque jour, en fait, il y a des défis un peu à faire créatifs. Et je ne suis pas hyper fan de tous ces trucs de développement personnel, un défi par jour, un challenge, machin. Mais celui-là, en fait, c'est mis pour t'apprendre à dessiner, mis pour t'apprendre à te libérer. Et j'ai commencé à le faire et je crois que c'est vraiment lui qui m'a impulsée à me dire « Allez, je reprends mes études » parce qu'en fait, c'est ça que je veux faire. C'est, je veux être sur une tablette graphique et en même temps que je veux être sur un micro qui enregistre et que sur une platine, je veux pouvoir créer et, avoir, et savoir manipuler tous les matériaux pour pouvoir créer au mieux. Et du coup, voilà, je m'emploie à remplir régulièrement des petites choses, des petites pages, des pages de ce livre, de petites choses un peu jolies. Et c'est un objet qui me fait du bien, qui ne m'a coûté que 12,90 €.
Ok. Est-ce que tu as une application téléphone que tu utilises et que tu voudrais conseiller ?
Seloger.com en ce moment.
Pourquoi pas ?
Non, en fait, alors je suis beaucoup sur Instagram parce que j'aime beaucoup cette appli parce qu'elle me force la créativité en même temps qu'elle me frustre énormément quand je vois ce que d'autres sont capables de faire et que je me dis « Ah, je suis nulle !» Mais l'appli vraiment dont j'avais envie de parler, c'est une application qui s'appelle Forest. Ça va te plaire, Julien. C'est une application pour apprendre à se concentrer, en fait. C'est-à-dire que tu... Je sais pas si vous la connaissez.
C'est celle où tu plantes un arbre.
Exactement, c'est ça. Tu plantes un arbre, tu décides pour combien de temps tu plantes ton arbre. C'est-à-dire, est-ce que tu le mets 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tu peux le mettre jusqu'à 2 heures, je crois. Attends, je suis en train de le faire en même temps. Je reviens au début. Ouais, tu peux le mettre jusqu'à 120 minutes. Et pendant 120 minutes, au début, tu as une petite graine. Et sur l'écran de ton téléphone, la petite graine, elle va grandir, grandir, grandir. Et à chaque fois que tu essayes de te saisir dans ton téléphone pour voir autre chose, tu as l'application qui fait « Non, 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 c'est mort, ton arbre est en train de mourir, tu reviens tout de suite, tu ne te déconcentres pas. » Et du coup, tu as ce truc empathique de tu regardes ton petit arbre et tu fais « Ah non, c'est vrai quand même, et en plus, il est déjà à la moitié, je ne peux pas le laisser comme ça. Ok, je laisse mon téléphone, pas de souci, j'attends. » Et du coup, ça oblige à te focusser sur ce que tu étais en train de faire. Genre « Ok, je ne vais pas aller voir Instagram, je continue ce que je fais, c'est pas grave. »
C'est ça. Je trouve ça génial. Je vais m'empresser de télécharger cette application. Tu aurais pu m'en parler quand même. Hein,
mais j'ai pas pensé parce que moi, à chaque fois, je me sens tellement coupable quand mon arbre meurt parce qu'il meurt régulièrement. parce qu'en fait, moi, je le détourne. En fait, du coup, je vais laisser le téléphone, je vais utiliser l'iPad, je vais utiliser l'ordinateur, je vais passer par d'autres médias. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je l'installe partout.
Plante des arbres partout.
Voilà. Donc, c'est pas possible. Mais la prochaine fois qu'on travaille, qu'on se fait un petit brainstorm, on fera ça.
En fait, le réchauffement climatique, c'est vous, quoi.
C'est ça, pardon.
Exactement. J'arrête. Mais en plus, Je crois qu'il y a eu un moment dans cette application, quand tu plantais un arbre, ils reversaient un petit peu d'argent à une association qui plante vraiment des arbres dans la vie pour l'oxygénation de la planète.
Donc, je crois qu'il y a eu des périodes comme ça où ils ont fait ça.
Ouais. C'est plutôt très très cool. Et tu as ce truc un peu d'accumulation aussi, parce que tu accumules des pièces, genre hey, « bravo, tu as gagné 3 pièces aujourd'hui !»
Après, tu fais des forêts pardon. Aussi.
C'est ça. Donc c'est, non, c'est mignon. C'est cool. Enfin, graphiquement, je trouve qu'elle pourrait être mieux. Les arbres, ils sont un peu pixelisés, un peu basiques. Mais non, le principe est assez cool, en fait. Ça te détend, en fait.
Mais en fait, les beaux arbres, ils sont quand tu en fais beaucoup. Si j'ai regardé, ah. Il faut être très, très patient. Donc, soit tu mets ça la nuit et tu fais ça toutes les nuits et tu débloques tes arbres, soit tu es quelqu'un de très concentré. Oui, mais moi, je hack les systèmes. Je voulais les beaux arbres.
Tu es là pour que tu te concentres et tu mets ça pendant que tu dors.
Je voulais les beaux arbres. Excusez-moi, je voulais la belle forêt, moi.
Mais ceci dit, c'est un bon truc aussi parce que je le fais dans la vie, pas le virtuel, mais quand je veux vraiment me concentrer en été, j'habite à côté du bois de Boulogne et je vais me poser sous un arbre pour travailler. Parce que je ne sais pas si c'est la chlorophylle ou quoi, mais ça me fait vachement de bien, ça m'aide vachement à focusser.
Alors, ouais, pareil, j'ai un jardin, enfin j'ai une terrasse sur laquelle je plante des piments, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand je vais vérifier si les plantes vont bien en rentrant du boulot, enfin quand je rentrais du boulot, en tout cas, c'est vrai que ça me détendait à un point et j'étais vraiment concentré, et je suis vraiment concentré quand je suis dans mon jardin sur les plantes, sur... m'occuper de ces plantes pour qu'elles aillent bien, pour traiter, etc.
C'est vrai, hein.
Ouais, c'est génial.
En fait, c'est un peu comme un enfant, sauf que ça fait de même bruit. T'es obligé de t'occuper de lui. T'as pas le choix. C'est comme ça. Tu t'occupes de ta plante.
Il y a la sylvothérapie, justement, qui permet de se... En fait, c'est démontré maintenant que les plantes ont justement un effet bénéfique au niveau de la concentration.
Donc, comme sylvo, comme sève. Comme
exactement.
La thérapie de la sève, c'est trop bien.
Mais en fait, c'est la thérapie des arbres. Et au Japon, il y a une pratique qui consiste justement à faire des méditations dans les forêts. Donc, je ne me souviens plus exactement le terme, parce que c'est japonais et c'est un peu compliqué. Mais c'était quelque chose, j'habitais un petit peu de temps à Paris, que moi, je voulais mettre en place pour faire des balades justement dans les forêts, parce que ça aide énormément à la concentration, à la créativité, bien évidemment. Et juste le simple fait d'être en pleine forêt... et de pouvoir se promener dedans, il y a quelque chose de très, très apaisant. Et il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont faites dans le domaine du bien-être sur ce sujet, qui ont souvent été décriées parce que la sylvothérapie, si tu cherches un peu, tu la trouveras d'office, tu verras des gens faire des câlins à des arbres, qui est une pratique existante et qui est une pratique très bénéfique. Mais bon, il faut s'y connaître un peu avant de juste la juger en voyant qu'on fait des câlins à des arbres. Mais c'est gentil, un arbre, arrêtez, c'est très important.
Bah, déjà, c'est vivant, en vrai. C'est pas parce qu'il ne communique pas de notre manière qu'il ne communique pas. Et ouais, en fait, je te rejoins complètement parce qu'avec mon chéri, alors déjà, lui, il court beaucoup, il aime bien courir dans la nature, dans les bois, etc. Et on a remarqué que le week-end, ou en tout cas un moment de la semaine, on aime bien se prendre un moment à l'air, en fait. Déjà, nous, on ne veut pas vivre dans Paris, on vit un petit peu en dehors parce qu'on a besoin de ce côté un peu village avec de la végétation. J'ai de la chance de vivre sur une place où il y a plein d'arbres en dessous de ma fenêtre, j'adore ça. Et le week-end, on va se balader, on fait des balades comme des provinciaux. C'est tellement snob, pardon. Mais c'est ça, on adore ça, quoi. Enfin, on se dit, nous, on ne serait pas con de vivre dans une ville où on puisse être un peu plus à la campagne s'il y avait toute l'activité culturelle de Paris ailleurs, quoi. Et ce truc de campagne fait d'arbre fait vraiment du bien. Vraiment, ça recharge pour le dimanche avant le lundi, quoi.
Tout à fait, ça, je te rejoins tout à fait.
Mmh, j'irai essayer, j'irai faire un câlin à un arbre.
Bah, je t'emmènerai faire des câlins.
Et puis s'il y a un ours à côté, je ferai un câlin à l'ours aussi.
Oh, c'est difficile de trouver des ours en France.
En France, ouais. Ou alors c'est ton voisin, mais c'est peut-être pas...
Ouais, c'est clair.
Là-dessus, je vous laisserai converser ensemble, je sais pas.
Allez, on va terminer sur une citation. C'est son fétiche.
C'est une citation qui est imprimée dans mon écrin de violon, qui est « Sans la musique, la vie serait une erreur ».
C'est joliment dit.
Ouais, c'était le premier amour de ma vie, la musique, et c'est ce qui réunit aussi beaucoup de monde. Je connais peu de gens qui te disent « j'aime pas la musique, j'en écoute jamais », ça permet de faire vibrer. Même quand tu n'écoutes pas les paroles, que tu n'écoutes que le rythme ou le son, tu ressens des choses à l'intérieur de ton corps, et physiquement avec des basses ou l'harmonie des notes qui te procurent des émotions. Et on vit pour être dans le collectif, mais aussi pour ressentir, en fait. Et je crois que la musique, c'est un des premiers arts qui te permet de ressentir, pour moi. En tout cas, les plus grands nombres de personnes, parce que, évidemment, dans l'histoire de l'art, c'est plutôt le visuel, la peinture, l'asco, tout ça. Mais ouais, non, je crois que le son, c'est parce que bah tout ça aussi hein, la musicothérapie, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens sans qu'ils s'en rendent forcément compte et qui est sociologiquement complètement accepté. Donc j'adore.
Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses et pour cette discussion qui a été vraiment passionnante.
Ouais, c'est trop cool.
Bah ouais. Nous, on a beaucoup apprécié.
Ouais, c'était génial.
Ouais, j'ai passé un bon moment. Je me suis vue à un moment de la conversation en me disant, je vais faire mes courses après, je vais avoir le smile. Non, c'était trop bien.
Ouais, c'est super cool.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? On ne vous a pas menti sur l'énergie. Nous, en tout cas, on a beaucoup appris lors de ce riche échange avec Florence. C'est intéressant de l'entendre parler de ses expériences professionnelles et de sa relation en tant que multipotentiel avec ses collègues de travail, car je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ces situations similaires. Elle a aussi résumé quelque chose qui nous paraît important et qu'on essaye d'apporter avec ce projet Cameo, le fait de voir et de se servir de sa multipotentialité non pas comme un défaut, mais comme un atout dans sa vie. C'est le fait de l'assumer. Bon, et vous, on aimerait bien...
Beaucoup !
Oui, beaucoup même. Connaître vos retours d'expérience et votre opinion sur ces sujets. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans l'article de l'épisode. On voulait aussi remercier chaleureusement les personnes qui nous envoyaient des messages de remerciements et des suggestions sur la newsletter quinzomadaire. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps à dénicher de bonnes trouvailles et ça fait vraiment plaisir de recevoir vos messages et de savoir surtout comment vous les mettez à profit. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui veulent simplement voir de quoi ça a l'air, il suffit de s'inscrire sur le site pour recevoir immédiatement une liste de 5 astuces et de trouvailles. N'hésitez pas non plus à noter sur iTunes le podcast et à parler de Cameo aux personnes qui pourraient être intéressées. Allez, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt.